One Day.
Et comme il suffirait des fois un tout petit peu de détermination pour devenir nos propres super-héros, et Piero Del Mar nous propose The From the Valley to the Stars sur l'album éponyme de l'affaire qu'on enchaînera à The Concrete tout de suite après.
C'est pas le même endroit, on l'emmène en réanimation.
C'est le même endroit, non, c'est... avec elle.
Non, c'est une grande blessée, je suis obligé de l'emmener.
Non
avec... Je veux pas vous laisser partir
mais
avec elle.
Mais tu sais pas.
Je peux pas vous laisser
je
partir
pas,
avec elle.
Miguel,
je ne peux pas.
Si.
Même si je voulais, je ne pourrais pas.
Non.
Je suis la police, j'ai pas le droit. Allez, venez.
Non.
de la coordination des libres penseurs. C'est un communiqué établi en date du 18 février 2011. Les libres penseurs de la coordination des libres penseurs s'étonnent devant l'absence de condamnation claire à ce jour par la Fédération anarchiste des propos tenus sur Radio Libertaire et sans contradiction de l'animateur, notamment le samedi 25 avril 2009 par Pierre Cassène, le président de Riposte laïque, dans l'émission « La philanthropie de l'ouvrier charpentier » animée par un responsable à Radio Libertaire. Nous nous inquiétons de l'utilisation faite par ses invités, Pierre Cassène et Anne Zelinski, dans leur défense contre la plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme, Riposte laïque, se référant de son passage dans la radio de la Fédération anarchiste. La coordination des libres penseurs produit chaque dimanche de 10h à midi l'émission Ni Maître ni Dieu sur Radio Libertaire depuis avril 1997.
Il y a la pain sur sang qui existe, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves en mutant. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas sur cent et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur de les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi avec l'amour au poing sur la table ou sur rien avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il y a la pain sur sang et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue des anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Canapin sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les
Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, et nous allons commencer l'émission Ni maître ni dieu de la coordination des libres penseurs. Alors, bonjour à Jacques ou au Jacques, puisqu'il y en a
nos
plusieurs.
Nos Jacques préférés.
Et plus particulièrement.
Nous en avons beaucoup dans notre entourage.
Oui. À JB et à Daniel. Voilà.
Notamment à JB, oui.
Voilà. Eh bien, oui, toujours dans l'actualité, encore pour ce dimanche matin. Autour de cette pétition là qui est un croche-pied, une instrumentalisation de la religion, puisque en fait toute l'émission va tourner autour de ça. Il y a dans certaines parties du monde, il y a des manifestations contre donc cette confessionnalisation donc du pouvoir, notamment en Liban. Et là, on se rend compte qu'avec le parvis des gentils, avec les débats là, ce débat qui a été lancé là par un chef d'un parti politique, hein, je crois, c'est Copé. Le titre, c'est « Exercice des cultes en France ». En fait, ça dérive vers la pratique de la religion musulmane en France. Voilà, en gros, c'est ça, c'est complètement... Et alors là, il y a cette pétition là qui est sortie. Alors, c'est atterrant de voir les personnes qui signent des bouts de papier sans même lire le texte, puisque je vois pas si à partir du moment où ce texte est acceptable par quelqu'un qui a des idées que l'on n'accepte pas, il y a un problème, hein. On va commencer par cette déclaration de l'ex-conseiller présidentiel, donc, qui accuse le chef de l'UMP, et notamment, c'était celui qui était chargé à l'Élysée de la diversité, qui s'appelle Abderrahman Dahaman. Voilà. Et alors donc, il a écrit dans le quotidien d'Oran, là, c'est du 22 mars, hein, 2011. Voilà ce qu'il écrit. Il y a des gens dans l'UMP qui veulent l'alliance avec le Front National. Je ne travaille pas avec des néo-nazis, dit Monsieur Dahaman, qui se présente toujours comme un ami du président Nicolas Sarkozy, qui l'a pourtant limogé le 11 mars, hein. À ses yeux, l'Union des Français musulmans, UFM, que le parti de la majorité présidentielle a créé le 18 mars, oui, il y a des dates comme ça, le 18 mars, donc le 18 mars 2011, hein, n'a qu'un rôle de supplétif, comme à la veille de toute défaite, estime-t-il, l'UMP veut faire appel à des supplétifs. Donc c'est Abderrahman Dahaman qui dit ça, ex-conseiller, donc... à la diversité auprès de Nicolas Sarkozy. Alors c'est ce truc là, c'est passé sur le site de l'UMP. Alors évidemment, Internet ça pose problème, hein, puisque on peut effacer. Toujours est-il qu'il y en a qui ont enregistré et puis voilà, ça reste, hein. Et alors donc. Le 18 mars 2011, hein, l'UMP publiait un communiqué annonçant la création de l'Union des Français musulmans. Alors évidemment, il y a tout un texte autour, hein. Il y a tout un texte qui suit. Et alors, il y avait donc notamment ce qui a fait percuter, ce soutien, ce parti, l'Union des Français musulmans, était constitué de personnalités franco-musulmanes. Voilà. Alors évidemment, ça a fait tilter à tel point que ça a tout de suite été retiré, hein, personnalité franco-musulmane. Parce que ça pose quand même problème. Est-ce qu'on accepterait personne franco-catholique? Est-ce qu'on accepterait personnalité franco-juive? Bon, est-ce qu'on accepterait par exemple personnalité franco-anarchiste? Voilà, non mais c'est complètement
franco-adorateur de l'oignon.
Ah oui, non mais là c'est encore sorti donc du sac à malice sûrement de Copé, hein, tout au moins des dirigeants de l'UMP. Alors évidemment, il y a Olivier Stirne, hein, qui est secrétaire national en charge des Français de la diversité. Oui, Français de la diversité. C'est curieux. Enfin bon, il balance tout de suite un communiqué. Il ne se reconnaît absolument pas dans le terme de franco-musulman, qui ne correspond à aucune réalité, et tient à préciser que l'UMP n'a évidemment jamais fait aucune confusion entre une nationalité et une religion. Voilà. Ça a pourtant été écrit, mais ça a été effacé. Donc, il va falloir maîtriser Internet, comme il y a un petit peu plus de 1000 ans, il a fallu maîtriser, l'imprimerie avec Gutenberg, hein. Et oui. Parce que c'est écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein. Et oui, voilà. Et c'est pas parce que Internet passe par le téléphone que c'est du langage parlé qui s'envole. Hein. Ça reste écrit. Et alors, il y a des réponses, enfin des trucs. Par exemple, Sergi Pontoise, 23 mars 2011, c'est une dépêche AFP qui le signale. Un tract islamophobe diffusé dans une ville du Val d'Oise. Le tract placardé sur les murs et distribué dans les boîtes aux lettres porte la mention suivante. Les cultivateurs en colère déversent... Alors là, je le lirai même pas parce que c'est vrai, c'est dégueulasse. Le contenu de ce mail est totalement contraire à mes convictions profondes de respect de toute croyance religieuse ou opinion politique. C'est le maire d'Herblay, donc Patrick Barbe, qui déclare cela. Il y a des comparaisons. À partir du moment...
À Herblay?
Oui.
C'est un lieu bien connu d'épandage?
Oui, la patte d'oie d'Herblain.
C'est assez nauséabond.
Et puis, il y avait aussi André Lorulot qui avait son imprimerie, je crois, à Herblain. Mais à partir du moment où on commence à comparer des individus à des légumes, ou à des animaux, ou à des insectes, ça pue le fascisme, ça. Puisque ça relativise tout à fait. On peut écraser, disons, un cancrelat. On peut tuer un rat sans problème. Hein. C'est au contraire, c'est faire dans la tête de certains, c'est faire œuvre donc de salubrité. On peut aussi donner un coup de pied dans un légume. Hein. C'est vraiment, comparer l'humain là, c'est une horreur, ça. C'est la porte ouverte. Hein. Paris, 23 mars 2011, AFP, appel dans le Nouvel Observateur contre le débat sur la laïcité. Alors, ça vient de, c'est la publication Respect Mag, qui milite pour la promotion de la diversité, qui lance jeudi dans le Nouvel Observateur un appel demandant au gouvernement de renoncer au débat sur la laïcité, qualifié de débat procès de l'islam prévu le 5 avril à Paris. Donc, c'est ce qui a été annoncé comme le débat au sein de l'UMP sur l'exercice des cultes en France. Voilà. Donc, voilà. Alors. Nous demandons de renoncer, Parmi la dizaine de signatures, c'est du 23 mars, hein. Parmi la dizaine de signataires de l'appel figure le rappeur et écrivain Abd al-Malik, l'ancien résistant Raymond Aubrac, la première secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry, la réalisatrice Yamina Benguigui, l'écrivain Tahar Benjelloun, l'entrepreneur et mécène Pierre Berger, oui, voilà, le journal Le Monde, le philosophe Adennour Bidar, ou encore Marwan Boulloudine, président de Mosaïque, une fédération laïque, QUE, des citoyens de sensibilité musulmane. Alors, laïque QUE, c'est pas laïque très massé, hein. Là, il y a quand même encore un gros problème de sémantique, hein. On mélange des mots qui peuvent pas aller ensemble, hein. Voilà. Donc, c'est la première apparition. Et alors, évidemment, tout de suite, le 24, l'après-midi, oui, il y a quelle heure? Ça, c'était une dépêche du 23 mars. Le lendemain, le 24 mars. Ça se suit, hein, pratiquement au quart d'heure près. Les dépêches, dans certains cas, c'est assez curieux de voir ces réponses, ce jeu de ping-pong. Laïcité, l'UMP reproche à Martine Aubry d'avoir co-soutenu un texte avec Tariq Ramadan. Eh ben oui, voilà, c'est le texte donc qui a été balancé dans le... il est dit, parmi les soutiens de cet appel, publié jeudi dans le Nouvel Observateur, où trouve aussi l'ex-premier ministre Parti Socialiste Laurent Fabius, les députés européens, donc Europe Écologie Les Verts, Daniel Cohn-Bendit et José Bové, la députée, donc Parti Radical de Gauche de Guyane, Christine Taubira, ainsi que plusieurs écrivains, historiens et personnalités, Donc évidemment, l'UMP en fait ses choux gras, oui.
Les chefs, petits ou grands, ne sont pas exemptés d'être tenus à la vigilance.
Ils sont tellement heureux de voir leur nom imprimé. Attendez, moi, je sais pas, bon... Moi, on m'a toujours dit que...
Messieurs les chefs, un peu de vigilance, au nom de Dieu.
Quand j'étais gosse sur les cours de récréation, quand on dévisageait quelqu'un, il me demandait pourquoi tu me regardes comme ça, on lui disait, je regarde bien un chien, regarde bien un évêque, je peux bien regarder un imbécile comme toi. À l'heure actuelle, c'est très dur à dire. On disait aussi, le nom des imbéciles est écrit partout. Hein, quand on refusait de marquer son nom, on disait, écoute, mon nom est écrit par mes talons sont usés, donc mon nom est effacé. C'est vraiment ce marquage systématique. La seule existence sociale, c'est de voir leur nom et de déclencher des polémiques. C'est jouer avec le feu.
Et les chefs, grands ou petits,
c'est comme ça qu'ils sont devenus
s'ils
chefs.
Ne sont pas aptes à la vigilance, finalement, c'est presque une tautologie. Parce qu'ils sont enclins, et leur exercice, c'est de stigmatiser l'autre et celui qui pense autrement.
S'ils étaient vigilants, ils ne seraient pas en chef. Hein. Chef, c'est une pathologie. Bon, voilà. Enfin,
donc on est dans la stigmatisation,
alors,
on n'est pas dans la vigilance.
Évidemment, il y en a qui montent au créneau, hein, comme par exemple Nadine Morano, c'est de quoi elle parle. Des députés, Valérie Rousseau de Bord, Michel Tabarot, Catherine Vautrin. Donc voilà ce qu'ils disent. Tariq Ramadan, proche des frères musulmans, refuse toujours de prendre position clairement et sans détour pour l'arrêt immédiat et définitif de la lapidation des femmes dans tous les pays du monde. Donc pratiquement... disons une demi-heure après, laïcité, dépêche AFP 24 mars, hein, laïcité, Aubry regrette que sa signature figure à côté de celle de Tariq Ramadan.
Et oui, c'est une boulette.
Et puis ça continue à enfler. Ça continue à enfler, et alors là, elle regrette. Hein. Elle a signé, elle savait d'où venait la signature. De toute façon, si le texte convenait à Tariq Ramadan, il y a un problème. Enfin, moi, c'est là où il y a un problème. Hein. 24 mars, donc un petit peu, quelques dizaines de minutes après, Aubry et Fabius retirent leur signature de la pétition soutenue par Tariq Ramadan. Et alors voilà ce qu'elle le dit pas, mais c'est son entourage. Hein, son entourage a assuré qu'elle n'avait jamais été informée que Tariq Ramadan était destinataire de cette même pétition et que si elle l'avait su, elle aurait évidemment refusé de la signer. C'est clair et net. Ça veut dire qu'elle signe n'importe quoi. Mmh. C'est invraisemblable. Non, mais là c'est là où ça pose problème. Là, je ne comprends pas où c'est Tariq Ramadan qui n'aurait pas dû signer parce que la pétition ne convenait pas, ou c'est elle qui n'aurait pas dû signer parce que le texte de la pétition ne convenait pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Hein.
Il y a des manipulateurs des pétitions. Il faut être très prudent.
Ça, il y a des champions. 25 mars, là, donc, c'est le lendemain. Tariq Ramadan, évidemment, c'est du miel pour lui. Ramadan accuse PS et UMP d'offrir une voie royale à Marine Le Pen. L'intellectuel Ramadan, l'intellectuel musulman. Oui, l'intellectuel musulman Tariq Ramadan a soupçonné vendredi sur Radio Orient, UMP et PS de se mettre d'accord pour donner une voix royale à Marine Le Pen, présidente du Front National. Réagissant à la décision de la première secrétaire socialiste, Martine Aubry, de retirer sa signature d'un appel à l'UMP à renoncer à son débat sur l'islam et la laïcité, parce qu'il l'avait également signé, Tariq Ramadan s'est dit surpris. Débat sur l'islam et la laïcité, c'est débat sur l'exercice des cultes en France. Déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Fallait être très clair.
Faut pas se tromper de mots. Ce monsieur n'est pas un intellectuel. L'intellectuel, entre guillemets, Tariq Ramadan. Ce monsieur est un agitateur.
La preuve. Mais bon, avec le parvis des gentils, il y a ce cardinal Ravasi, là, qui, professionnel, qui vient dire, on est là pour jeter un pavé dans la mare. Bon. Alors, évidemment, quand c'est une mare de merde, c'est pas comme une mare de rose, hein,
C'est violent pour les canards, hein,
C'est assez gentil.
C'est violent pour les canards,
ça, les canards.
Mais en fait, c'est quoi, ça, le pavé dans la mare? Eh ben, c'est l'institution, soi-disant, du dialogue.
Oui, c'est ça.
Il y a des alliances de mots qui sont douteuses.
Ah mais non, mais si vous voulez dialoguer avec quelqu'un, ça se voit du reste. Il faut faire la guerre.
La
on balance des bombes et après on cause. Parce que c'est pas autre chose une guerre. Le mieux, je sais pas, moi il me semble, de ce qui se passe dans l'histoire connue de l'humanité, toute guerre a un fondement, disons, de croyances intimes, déjà. Et alors ça commence... On en massacre le plus possible des deux côtés, et quand on est un petit peu fatigué d'en avoir massacré, on commence à s'asseoir autour d'une table. Je pense que ça serait peut-être mieux de prendre le contraire. C'est déjà de faire fi de ses croyances intimes, c'est de s'asseoir autour d'une table, et puis comme ça, il n'y aurait plus de guerre du tout. Alors évidemment, il y a quand même toute une industrie là qui péricliterait. Mais ça serait pas un inconvénient. Hein. Il vaut mieux faire, disons, des charrues que des canons. Hein. C'est comme ça que je le vois, mais bon... parce que ça laboure bien, hein, les obus. Hein. Il n'y a qu'à voir du côté de Verdun, ou même là, ce qui se passe en Libye, ça fait des gros trous. Hein. Mais il n'y a rien qui pousse après. Hein. Rien. Hein.
Et alors, je reviens à mon petit cheval de bataille. Ce qui précède ces guerres et ces violences, c'est une certaine forme de pensée, la pensée que j'appellerais aujourd'hui, doctrinale, qui est la même que la pensée dogmatique. Pour moi, c'est la pensée dogmatique. Il y a affirmation, dans un premier temps, d'une idée. C'est comme ça. Alors, on va vous dire, c'est la nature. C'est à prendre comme ça. C'est dogmatique. On va vous démontrer que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, et alors là, c'est la démonstration du serpent qui se mord la queue. Hein. Et pendant qu'on fait ça, on rejette la pensée adverse. C'est l'inquisition. C'est fondé sur la stigmatisation de l'autre. Et on injecte au passage de fausses vérités, en faisant des glissements, des confusions. Et c'est ça, jeter le pavé dans la mare, qui fait très mal au canard.
Et puis à l'eau, hein, c'est voilà, ça éclabousse. Hein. Donc je continue avec ce truc qui est caricatural, parce que bon, c'est vraiment mettre une signature en bout d'un bout de papier, c'est quasiment ça fait une affaire d'État. Pétition, c'est Dépêche AFP du 25 mars, hein, donc quelques quarts d'heure après, quoi. Pétition Ramadan. C'est AFP qui le signale. Cohn-Bendit juge ridicule qu'Aubry ait retiré sa signature. Et voilà ce que dit donc Cohn-Bendit. Avoir un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Claude Guéant qui dit à les pires insanités, c'est un vrai problème. Mais si vous trouvez 10 personnes qui changent d'avis pour les cantonales, même une, après avoir lu que Ramadan a signé une pétition où il y a Martine Aubry, je vous invite au restaurant de votre choix. A-t-il ironisé? Donc voilà, alors donc il peut nous inviter, mais enfin je me méfie un peu avec Cohn-Bendit, parce que bon, je ne partage pas les agapes avec tout le monde, moi. Paris, 25 mars 2011, les responsables politiques doivent mesurer l'impact de leurs propos. Qui c'est qui dit ça? Bah, c'est le président du Conseil français du culte musulman, le CFCM, Mohamed Moussaoui, qui a déploré vendredi le climat de crainte, hein. J'ai exprimé le fait qu'un certain nombre de déclarations ont pu créer un climat de crainte et d'inquiétude chez les musulmans. Voilà. Il dit ça donc à la sortie d'un entretien de 45 minutes environ avec François Fillon. Bah, lui, il a pu discuter avec lui pendant 45 minutes, avec Fillon, là. Et alors, voilà ce qu'il dit. Il est important que les hommes responsables de notre pays, les hommes responsables, oui, puissent mesurer l'impact que peuvent avoir des déclarations, des expressions, a-t-il poursuivi dans une référence manifeste aux propos tenus récemment par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Selon le président du CFCM, le Premier ministre s'est montré très réceptif au cours de cet entretien. La discussion a eu lieu dans un climat de confiance et j'ai rappelé à François Fillon que son expression publique a permis, quelquefois, d'atténuer un certain nombre de choses qui ont marqué, il faut bien le dire, les musulmans de France. C'est Mohamed Moussaoui qui dit ça. Suite des dépêches, hein. 25 mars 2011, pétition, COPE et l'UMP ont cautionné Ramadan en 2009. Donc c'est un rappel, hein. C'était lors donc de ce débat donc sur le foulard, hein, le voile intégral, donc le 2 décembre 2009. C'est vrai qu'il y a Tariq Ramadan là qui est venu faire son numéro devant cette assemblée parlementaire là. Pour moi, il n'y avait pas sa place. Donc là, évidemment, bah, chacun règle ses comptes. Hein. Paris, 25 mars, pétition Ramadan, faute du nouvel observateur. Qui c'est qui dit ça? C'est la députée Parti socialiste de Moselle. Aurélie Filippetti. Alors, député de Moselle, c'est Moselle, faut quand même rappeler que c'est un département concordataire. Hein. Voilà. Peut-être un résumé, finalement, il y a une dépêche qui le résume. Paris, 25 mars, entre cantonal, Front National et débat sur l'islam. Ramadan au cœur d'une polémique française. L'intellectuel musulman suisse, Tariq Ramadan, s'est invité vendredi au cœur d'une polémique française qui a contraint la patronne du Parti Socialiste, Martine Aubry, signataire avec lui d'un appel contre le débat UMP sur l'islam, à se rétracter sous les attaques de la droite. C'est parce que la droite l'attaque qu'elle retire son truc. Hein. C'est même pas des personnes là de son parti, là du Parti Socialiste, qui lui attend, là, t'as un petit peu signé n'importe quoi. S'il y en a qui sont pas fréquentables pour nous, qui ont signé, t'aurais peut-être pas dû signer. Non, c'est pas ça du tout. Je continue la lecture de la dépêche. Tariq Ramadan s'est dit surpris que la première secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry, et l'ex-premier ministre, Laurent Fabius, aient retiré leur signature de cet appel, publié dans le Nouvel Observateur, pour ne pas figurer à ses côtés. Et voilà ce qu'il dit. En voyant le Parti Socialiste agir de la sorte et en voyant l'UMP instrumentaliser ses thèmes, donc de la laïcité et de l'islam, on se dit que si les deux voulaient se mettre d'accord pour donner une voix royale à Marine Le Pen, ils s'y prendraient pas autrement. C'est Tariq Ramadan qui dit ça. Et au passage, il s'en est également pris au ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, accusé d'aller trop loin et a reproché au président Nicolas Sarkozy de mener une ouverture vers l'extrême droite et le populisme. Bah, le populisme est UMP, Union d'un mouvement populaire. Alors on va me dire populaire, populisme, mais à la limite, populisme, c'est s'occuper du peuple. Hein. Alors évidemment, il y en a qui s'en occupent bizarrement. Et il continue, je trouve vraiment ridicule d'enlever sa signature parce qu'un tel ou un tel a signé. A pour sa part déclaré l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Oui, c'est très simple, hein. Europe Écologie Les Verts. Ils ont passé 2 ou 3 jours en congrès pour trouver un nom à leur alliance. On voit qu'ils ont vraiment fait alliance parce qu'il y a un tirage entre les deux. Donc, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Cohn-Bendit, lui-même signature de cette pétition qui demande à l'UMP de renoncer au débat. Voilà, l'UMP avait attaqué la veille Madame Aubry pour avoir signé cette pétition, assurant le PS d'avoir perdu son arme. Oui, bon, voilà. Tentant de reprendre l'offensive, les députés PS ont répondu que Jean-François Copé, alors président du groupe UMP à l'Assemblée, avait cautionné Tariq Ramadan lors de l'audition de l'intellectuel suisse devant la mission parlementaire d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national. Et ça, c'était le 2 décembre 2009. Les députés affirment qu'ils avaient dénoncé cette onction républicaine, oui, arme, onction, vous voyez que c'est très amusant, en n'assistant pas à l'audition. Mensonge, a affirmé le député Éric Raoult, rapporteur de la mission sur la base du procès-verbal de l'audition, qui mentionne effectivement des prises de parole de 4 députés Parti Socialiste. De son côté, la députée PS de Moselle, Aurélie Filippetti, a estimé vendredi qu'il y avait eu une faute du Nouvel Observateur. Très clairement, la signature de Tariq Ramadan pose problème en soi, et l'hebdomadaire aurait dû avertir Martine Aubry et Laurent Fabius, ainsi que tous les signataires, pour leur demander s'ils acceptaient d'être aux côtés d'un tel personnage, ce qui évidemment est extrêmement problématique. Alors, là, les politiciens là se déterminent en fonction de l'air du temps, quoi. C'est un tel signe, un tel signe, je signe pas. C'est pas la portée du texte. Non, pas du tout. Mais on est où là? Je trouve même que le Nouvel Observateur, bon, certains disent que c'est un croche-patte à Martine Aubry, mais il est honnête, il envoie la pétition sans dire qui signe. Vous vous déterminez en fonction du texte. Je n'arrive pas à comprendre. Ouais. Sur le Figaro, il y a un rappel, mais il est très nuancé, hein. Copé blâme Aubry pour avoir signé un appel avec Ramadan, et puis il y a un petit rappel à la fin, donc ce sulfureux universitaire qui voudrait rendre l'islamisme acceptable. C'est le Figaro du 24 mars 2011. C'est un habitué des plateaux de télévision qui a signé la pétition du Nouvel Observateur. Confronté à Nicolas Sarkozy en 2003, alors ministre de l'Intérieur, Tariq Ramadan avait tenu ses propos sur la lapidation des femmes. Deux points. Citation. Je demande un moratoire pour qu'on cesse l'application de ces peines-là dans le monde musulman. L'emploi du terme moratoire avait fait sursauter. Il avait surtout fait sursauter l'épouse de l'époque de Nicolas Sarkozy. Il y a la télé qui avait filmé. Moi, j'en ai le souvenir et je sais pas si, enfin voilà. Moi, j'ai ce souvenir-là, hein. Voilà. Connu en France depuis les années 1990, Tariq Ramadan, philosophe de 48 ans, est largement soupçonné de vouloir rendre plus acceptable l'islamisme sous couvert de faire connaître l'islam dans les démocraties occidentales. Pour cet universitaire suisse, sa famille d'origine égyptienne s'est établie à Genève après l'assassinat de son grand-père, fondateur des Frères musulmans. Et voilà ce qu'il dit, l'islam n'a pas de problème avec les femmes. Non, mais c'est peut-être les femmes qui ont des problèmes avec l'islam. Puis finalement, il n'y a peut-être pas que les femmes qui ont des problèmes avec l'islam. Pour moi, il y a pas mal de vivants qui ont des problèmes avec l'islam. En surface, le discours de Tariq Ramadan, populaire parmi les jeunes issus de l'immigration, affirme que les musulmans doivent respecter les lois des pays occidentaux où ils vivent tout en y étant des citoyens actifs. Double langage, dénoncer des tracteurs. En 2009... Tariq Ramadan a signé une pétition visant à supprimer le Hamas de la liste européenne des organisations terroristes. C'est le Figaro qui le dit, hein. Aux États-Unis, il a longtemps été persona non grata et a été renvoyé des Pays-Bas pour avoir participé à des programmes télévisés financés par le régime iranien. Alors, il y a quand même eu toute une affaire quand il a été prof de je sais pas quoi, d'histoire des religions, dans une université catholique en Californie, l'université Notre-Dame, et il a réussi à avoir le passeport. Hein, c'est... Alors, peut-être, puisqu'il y a des confluences avec les frères musulmans, il s'avère que les frères musulmans, notamment en Égypte, sont très discrets, et leur slogan, donc... c'est Raled Damza, hein, l'un de leurs membres, donc qui est responsable du site internet en anglais, donc qui transmet les nouvelles donc de ce qui se passe en Égypte. Un des slogans préférés des frères musulmans dans une manifestation, c'est « L'islam est la solution ». Alors, il est effectif qu'en Égypte, on l'a pas vu, disons, cette chose-là, c'est tout à fait lisse. Hein. Et alors, on peut prendre ce que donc Moubarak Raled Hamza, donc responsable du site internet en anglais, donc du site des frères musulmans égyptiens, voilà ce qu'il déclare, qu'ils se sont enfermés dans un dilemme entre une stratégie de transformation par le bas, par l'encadrement de la société, et une stratégie par le haut, putschiste et violente. Entre les deux, donc, ils découvrent une autre voie, la protestation civile, pacifiste de masse, la stratégie des manifestations du million. Et puis on va rester en Égypte. Parce qu'il y a eu des élections là en Égypte, hein, donc le 21 mars, hein, 20 mars, les Égyptiens ont voté à 77% les modifications de la Constitution. Alors la participation a été de 41%, donc 77% de 41%. Faut dire qu'avant, les élections en Égypte, notamment sous Moubarak, c'était à peine 10% de participation. Hein. Ça veut dire qu'il faisait pas bon d'aller dans ces machins-là. Et alors donc, c'est surtout l'article 2. L'article 2 stipule que la source principale de la législation, donc pour l'Égypte, c'est la charia. Hein. Voilà. Donc c'est ce qui a été voté. Hein. Voilà. Et alors il y a une déclaration de l'ambassadrice des États-Unis au Caire qui s'appelle Margaret Scobey. Et donc, elle est tout à fait contente de l'approbation de cette réforme. Hein, mais l'article 2, elle trouve que c'est un pas important vers la réalisation des aspirations de la révolution du 25 janvier 2011. Hein, voilà. Et ça stipule donc que la source principale de la législation, c'est la charia. Voilà. On va continuer. Voilà. On passe sur l'exercice des cultes. Hein, voilà. Disons une confluence s'est passée en boucle là, hein, pendant une journée à la télé, puis aussi sur les dépêches, hein, sur internet. Saint-Ouen, 22 mars, Saint-Ouen. Je rappellerai pas le FSE ou le FSL, mais bon, il y a des villes comme ça. Oui, elles sont marquées par le destin. Saint-Ouen. Le principe de laïcité rappelé à des lycéennes musulmanes en robe longue. Dépêche AFP du 22 mars 2011, je vais la lire. Des lycéennes musulmanes portant de longues robes dans leur établissement de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, et qui affirment avoir été menacées d'exclusion, se sont uniquement vu rappeler le principe de laïcité, a dit mardi à l'AFP le syndicat SNES. Une lycéenne de l'établissement, Auguste Blanqui, établissement Auguste Blanqui, non, c'est lui qui a, disons, au moins écrit en titre d'un journal, ni Dieu, ni Maître. Oui, 1881. Voilà. Ça traînait, hein, puisqu'il y avait sans Dieu, sans Maître, voilà. Donc, Auguste Blanqui, lycéenne de l'établissement Auguste Blanqui, avait auparavant dit à l'AFP, l'agence de presse, hein, Franck, qu'elle avait été convoquée avec trois autres jeunes filles par la direction du lycée. Toutes sont couvertes d'une longue et large robe noire qu'elles conservent dans l'établissement, contrairement à leur voile. La loi sur la laïcité a été rappelée aux jeunes filles et il leur a été dit qu'elles devaient entamer une réflexion à l'avenir pour se positionner par rapport à cette règle et pour savoir si elles voulaient rester dans l'établissement l'année prochaine, a rapporté Clément Dirson du syndicat SNES après des échanges avec ses collègues de l'établissement qui ont rencontré la direction mardi. On n'est pas dans une logique d'exclusion, le principe de laïcité leur a été rappelé, mais cela a pu être perçu comme une menace d'exclusion, a-t-il ajouté. Principe de laïcité, non, c'est une valeur la laïcité, c'est pas un principe, hein. C'est laïque qui est un principe. Laïque est un principe, c'est un concept politique de séparation des pouvoirs, le pouvoir religieux, le pouvoir civil. Voilà, c'est une merde. Bon, c'est confirmé par la loi de 1905, voilà, qui reconnaît donc bien deux pouvoirs. Hein. Vous en sortez pas, si vous êtes pas du côté des religieux, vous êtes du côté du civil, donc... c'est l'abolition du pouvoir, c'est pas la séparation qu'on demande, c'est l'abolition. Bon, c'était Bakounine qui demandait ça. L'affaire suscite depuis plusieurs jours un fort émoi sur les forums des sites communautaires. C'est la dépêche qui le dit.
Bah voyons.
Les collègues se sentent injuriés par les accusations d'islamophobie, a dit Clément Dirson. C'est un lycée avec des gens d'origine différente. Et cette cohabitation s'est toujours passée dans un grand respect mutuel.
Bah voyons.
A-t-il ajouté. Conclusion de la dépêche AFP. Les enseignants de l'établissement ont demandé au rectorat de leur apporter un éclaircissement sur le statut à accorder à cette longue robe.
Ouais. Alors, je voudrais préciser quelque chose.
Oui.
Il y a un inspecteur pour gérer ce conflit qui est venu, Alain Sexig. il relève quand même quelque chose. C'est qu'il y a des élèves portant cette tenue qui exerceraient une pression sur d'autres pour qu'elles adoptent ces mêmes tenues. Alors, je préciserai, parce que toujours mal nommer les choses...
C'est verbal.
Rajoute au malheur d'humanité, disait Camus. Mais c'est vrai. C'est pas un problème de robe longue, entre guillemets. C'est le problème que certains parlent d'un sanctuaire qu'est l'éducation et les lycées, l'école. Les écoles. Ça devrait être sanctuarisé, etc. N'empêche que c'est un lieu clos où se passe l'instruction, l'instruction publique. Là, il y a introduction de quelque chose qui n'a pas lieu d'être parce que c'est un uniforme. C'est pas que c'est une robe longue, robe courte. Il s'agit pas de ça. À une période, le port du pantalon, ceci, cela, sont des épiphénomènes, ça. C'est pas la robe longue qui pose problème. C'est cette tenue que ces jeunes filles, qui d'une façon apparemment innocente, voici ce qu'elles disent. C'est une qui dit ça, une lycéenne. Quand je leur ai dit que c'était une robe normale et qu'on s'habille comme on veut, on m'a répondu que la loi ne concernait pas que le voile. Eh bien oui, mademoiselle, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce vêtement que vous portez, qui a une certaine forme, une certaine couleur, un certain, je dirais, agencement, qui est là chargé de sens. C'est un uniforme. Eh bien, cet uniforme, il n'a pas à rentrer dans l'école de la République. Moi, c'est mon point de vue.
Voilà. Non, mais quand on achète, disons, un pantalon, une veste, dans un surplus de l'armée, on sait ce que ça représente.
Bah, ah oui.
Quand on achète un vêtement dans un magasin spécialisé, dans la vente d'objets, disons, rituels, religieux, on sait ce qu'il représente.
Bah oui.
Bon, alors voilà, mais c'est vrai que
on fait pas ce
là, c'est
veut.
Le moment de
c'est
le dire. Là, bon, je vais, c'est tiré par les cheveux, hein, comme diraient les sikhs. Hein. Voilà. Mais vous avez parlé d'instruction publique. Instruction publique, c'était le terme qui a été, disons, créé par Jules Ferry. C'est instruction, hein, c'est vraiment l'instruction militaire. Hein. Sous la Ve République, c'est devenu l'éducation publique.
Oui.
Il conviendrait que l'on arrive à émancipation ou émancipation du public, hein, ou émancipation publique, ou émancipation tout court. C'est encore la distinction qu'il conviendrait de faire entre savoir et connaissance. Le savoir, c'est le pouvoir. Qui sait a le pouvoir. La connaissance, c'est le partage. C'est encore la différence qu'il y a à faire entre universitaire et autodidacte. Hein. Voilà, c'est la distinction à faire entre soumis et insoumis. Y a des mots. Alors, les mots vivent. C'est certain que bon, le sens d'instruction publique en 1880 n'a pas tout à fait le même sens qu'il a eu en 1914. Hein. On est quand même là. Moi, le mot éducation, il y en a qui parlent d'éducastration, c'est quand même pas tout à fait loin, hein, ça ressemble quand même beaucoup à cela. L'école, c'est dans l'idée, c'est allumer une petite flamme, hein, pour c'est tout, c'est donner le goût à aller chercher, c'est donner le goût à aller vers l'autre, à tourner la page.
Oui, mais par ailleurs, d'accord. Et tout ça doit évoluer.
Mais il ne peut pas y avoir d'uniforme.
Mais par ailleurs, et ça c'est fondamental, l'école en aucun cas n'est et ne doit devenir une place publique. En aucun cas ça doit être le lieu des bacchanales. En aucun cas ça doit être le lieu de carnaval. Bacchanal, carnaval, je pèse mes mots, oui, tout à fait, symboliquement, c'est un lieu clos où ce qui s'y passe, ça s'y passe avec un certain rituel dans le temps et dans l'espace.
Il y a ce qui peut s'appeler une règle. Hein, il y a une règle. À partir du moment où on respecte la règle et que d'autres la transgressent, il y a un problème. L'école est un lieu qui doit être neutre. Alors c'est vrai qu'on peut considérer qu'il doit être neutre, donc on peut s'habiller comme on veut, c'est certain. Il y a encore pas si longtemps que ça, les pantalons étaient interdits pour les filles.
Mais oui.
Puisque bah, il fallait mettre une
moi,
les lycées les plus tolérants, il y a quoi, il y a une quarantaine d'années, acceptaient les filles en pantalon à partir du moment où elles avaient une robe sur le pantalon. On revient, mais à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe là pour ces robes longues, parce qu'en fait, il y a un pantalon sous la robe. Hein. Voilà. Alors, c'est quand même assez curieux de voir.
On n'a pas à savoir.
Ben non, mais ça évolue. Voilà, c'est il y a quand même. C'est disons la symbolisation du vêtement. Il y a la marque de la religion ou la marque de croyance. Pourquoi religion? La marque de croyance, la marque de dogme, aussi bien sur la nourriture, sur le vêtement, sur le corps même de l'individu. Les tatouages.
L'école est un lieu clos. C'est un lieu protégé, comme l'espace thérapeutique. C'est clos. Ça fonctionne selon certaines règles, c'est protégé des intrusions.
Et oui. Et donc, alors évidemment, ça fait encore les choux gras, hein. Dépêche AFP du 24 mars, lycéenne longue robe, deux points, hystérisation autour de l'islam. Qui c'est qui dit ça? Bartolone du PS. Hein. Voilà, président PS du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Évidemment, il y a des élections, alors c'est vraiment...
Pour reprendre le Vatican et ses sbires, l'école n'est pas un parvis. C'est tout sauf ça. C'est pas une place publique.
Il me semble que c'est quand même un ministre socialisant qui a quand même posé problème à pas mal de monde, mais c'est après le troisième accord langue Cloupet, hein, voilà, pour ne pas le citer, langue, hein, Cloupet, donc cette espèce de responsable de l'école privée, hein, mm-hmm. de l'école religieuse, hein, confessionnelle mm-hmm. catholique, hein, voilà, qui a considéré que les écoles devaient être ouvertes. C'est lui qui a fait tomber les clôtures des écoles. Voilà, ce qui fait que l'école n'est pas un champ clos, hein, où on va, disons, se battre.
Qu'on a introduit une certaine commercialisation de certaines choses. Oh. Par exemple, c'était à l'abri de tout commerce, l'école.
Oui. Paris, 24 mars, les usagers du service public ne doivent pas afficher de préférence religieuse. C'est la première dépêche qui est tombée, hein. Voilà. Alors qui c'est qui dit ça? Ni manifester une quelconque préférence religieuse. Eh ben, c'est Claude Guéant, l'actuel ministre de l'Intérieur. Il a dit ça, donc, sur iTélé, à 8h du matin, hein. Voilà, 8h30, un truc comme ça. Donc, évidemment, plaf, dans la demi-heure qui a suivi, foultitude de dépêches, hein, voilà. Et voilà ce qu'il dit. Sur donc ce débat qui est lancé par l'UMP, hein, donc en principe, moi j'ai le premier texte que j'ai vu, c'est l'exercice des cultes en France. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et alors voilà ce qui est dit Claude Guéant, actuel ministre de l'Intérieur. Ce que j'attends de ce débat, c'est que les préoccupations de nos compatriotes non musulmans, qui sont froissés, troublés par un certain nombre d'irruptions de la religion dans l'espace public, sur l'espace social, soient satisfaites, mais qu'en même temps nos compatriotes musulmans trouvent les moyens de vivre leur foi de façon plus paisible. Alors, vivre sa foi d'une façon paisible...
Ils sont pas sous la torture. On nous fait passer des vessies pour des lanternes, là.
Comment peut-on vivre sa foi d'une façon paisible?
Ils vivent leur foi comme ils l'entendent, non? Ils sont libres en France, non?
Quelle que puisse être la croyance, ça ne se vit pas d'une façon paisible. Puisque de toute façon, on cherche à convaincre l'autre. C'est il y a pas de problème, hein, c'est le marquage du territoire, c'est la croisade, c'est l'envahissement, c'est l'affirmation donc d'une croyance. Nous savons bien que nos compatriotes sont très choqués. Alors il va sur les prières de rue, j'arrête là. Alors ça continue. Alors évidemment, tout de suite après, nouvelle dépêche, Guéant, signe religieux, Guéant pensait en particulier aux usagers de l'hôpital. Donc évidemment, c'est ceux qui viennent à son secours tout de suite, hein, parce que c'est l'entourage de Guéant. Alors voilà. Par exemple, on sait qu'à l'hôpital, il y a un certain nombre de personnes qui refusent, pour des femmes, des soins prodigués par des hommes. Eh bien, ce n'est pas admissible, a estimé le ministre. Ouais, ça fait longtemps que ça dure, ça. Alors, il continue. Les usagers de certains services publics doivent s'abstenir de préférences religieuses. Là, c'est plus les fonctionnaires, hein, c'est les usagers. Hein. Alors là, évidemment. Et alors, un membre de l'entourage du ministre a ensuite fait une mise au point sur ces déclarations de Monsieur Guéant. Dans son esprit, ça concernait en particulier l'hôpital ou certains services publics comme l'hôpital ou encore l'école, là où des cas problématiques sont le plus souvent observés. Il entendait bien dire que l'organisation du service public s'impose à l'usager, et comme le service public est neutre, un usager ne peut pas récuser un médecin ou quelqu'un d'autre pour un motif religieux, a expliqué donc l'entourage du ministre. Voilà. Donc
on avait
ça
lu...
veut dire que le ministre balance un truc qui est incompréhensible et derrière il y en a qui viennent faire l'explication du texte. C'est comme la Martine Aubry qui signe un texte et après on vient lui expliquer bah non attends il y a l'autre qui a signé là on a faut retirer ton truc là. Mais attendez mais il y a un problème là.
À propos des aberrations des religieux, il y a pas très longtemps on avait lu le point de vue d'un aumônier dans un hôpital musulman qui disait qu'il fallait que les médecins et les infirmières s'adaptent à de nouvelles formes de pratiques. Par exemple, quand une personne musulmane est soignée dans sa chambre d'hôpital et qu'elle ne peut pas faire sa toilette avec de l'eau, du savon, pour selon certaines croyances, eh bien, il y a la pierre, il y a le pavé au pied du lit.
Oui,
il était en train
non,
de... Il faut former les infirmières d'accepter la pierre au pied du lit.
Franchement... C'est d'accepter un galet, disons, non, une pierre, c'est pour un pavé, quand même. Non, mais c'est disons,
on l'a pas inventé, ce truc-là.
Galet, puisque un galet, donc, sur la table de chevet, quoi, voilà.
Ce qui on l'a pas même, inventé,
c'est vrai,
truc-là.
Oui, bon, bah, pourquoi pas, hein.
Bah, tiens,
à une certaine
et puis quoi
époque,
encore.
À une certaine époque, on acceptait bien le pot de fleurs avec des...
C'est toujours en vigueur, et oui. C'est plein de saloperies, le pot de fleurs.
Ah non, le pot de fleurs, attends, c'est... Non, mais c'est... Bon, il y a une évolution, je vous dis, c'est comme pour les robes, hein. Il y a 40
ans,
c'est
bien sûr que tout évolue. Moi, je caricature en disant le pavé au pied du lit. Bah oui, ça part du galet qu'on va frotter sur la peau et puis ça va être le pavé. Bah oui.
Alors là, évidemment, ça c'était le ministre qui a dit ça. Hein. Pratiquement dans le, ça c'était donc oui, c'est Guéant qui dit ça. Donc dépêche AFP, 24 mars 11h08. Réponse du président du CFCM, 24 mars 2011 bien sûr, 13h08. Donc on voit 08, c'est précis. Service public, les usagers peuvent exprimer leur appartenance religieuse. Le président du Conseil français du culte musulman, CFCM, Mohamed Moussaoui, qui avait été reçu 45 minutes par Phil Lyon la veille, a affirmé jeudi que les usagers des services publics peuvent exprimer leur appartenance religieuse s'ils respectent l'ordre public et la laïcité, après les propos du ministre de l'Intérieur sur le sujet. Et donc, on voit que là, le président du CFCM rentre en conflit avec le ministre de l'Intérieur, chargé des cultes dans les départements concordataires, mais surtout ministre de l'Intérieur, donc en charge de ce qui s'appelle, entre guillemets, l'ordre public. Hein. On voit que là, il y a une interférence, il y a donc un président d'une association religieuse qui rentre en conflit avec un ministre de la République. Je crois que là, ça va plaire.
La République, ils s'en fichent. D'ailleurs, ils parlent d'ordre public.
Alors, là, il y en a un qui vient faire une explication du texte, hein, comme pour le ministre, hein, Yazid Sabeg. Voilà. Donc, le commissaire à la diversité. Eh oui, diversité. Ça s'écrit en un seul mot, hein, voilà. Voilà. Une patiente est libre d'accepter de ne pas être soignée par un homme. Alors, il explique un petit peu après, en expliquant que les règles ne sont pas définies par les autorités religieuses. Ce n'est pas parce que l'Église est contre l'avortement qu'il est interdit en France, a argumenté M. Sabeg. Alors que les musulmanes invoquent des avis religieux pour justifier leur refus d'être examinés par des soignants.
Il y en a qui se sont battus pour que ce soit pas interdit, hein.
Alors lui, il défend
le... Faut arrêter les conneries, là.
Doucement, hein, très doucement, il le défend. Il peut pas faire autrement parce que sinon il va perdre sa place de commissaire à la diversité, alors évidemment. Défendant le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, donc, selon lequel le refus de soins prodigués par des hommes à des femmes n'est pas admissible à l'hôpital, Monsieur Sabeg a déclaré que les patientes peuvent se débrouiller pour aller voir des femmes. Peuvent se débrouiller pour aller voir des femmes. Ça rappelle ce que l'autre disait la semaine dernière, que la laïcité, donc c'est Borloo hein, qui disait ça, la laïcité c'était bien parce que ça permettait aux maires de se démerder. C'était ça. Hein. Là, on est à peu près dans le même truc. Hein. C'est non mais
les maires M-A-I-R-E-S, les maires des communes. Ah, hein, voilà. Entendons bien.
Alors il continue. Il n'est pas besoin d'alerter le Landerneau. Déclare Yazid Sabeg, commissaire actuel à la diversité, réclamant que des locaux soient mis à la disposition des fidèles. L'islam est la deuxième religion de France depuis 1830.
Encore un dogme.
L'islam est la deuxième religion de France depuis 1830. Par parenthèse, Conquête de l'Algérie. Il faut trouver des solutions avec le soutien des collectivités territoriales et dans des règles d'urbanisme. Alors, quand on vient nous dire que la loi de 1905, moi je l'ai toujours dit, la loi de 1905 n'avait pas pris en compte donc cette religion, voilà, non, si. Puisque de toute façon, l'Algérie, il y avait trois départements français qui faisaient partie de la République dite française. Hein. Voilà, jusque sous la 4e République. Donc c'est la 3e République 1905 hein, qui a fait cette loi de 1905. Il y avait trois départements. Voilà. Alors oui, sur la 2e religion de France, on a vu que l'INED a dit non, non, ils sont pas 6 millions. En fait, nous, on considérait que tous ceux qui venaient de tel pays, ils étaient d'office musulmans. Donc maintenant, on refait nos comptes et voilà, on prend que les personnes de 18 à 50 ans. Voilà, donc on tombe à un petit peu plus de 2 millions, pas plus. Ça veut dire que ceux qui ont moins de 18 ans exitent, hein. Voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas, ils jouissent pas de tous leurs droits civiques, entre guillemets. Hein. Voilà, ceux qui ont plus de 50 ans exitent. Alors eux, ils sont... non mais c'est très intéressant, la définition de l'INED là, de la semaine dernière est très intéressante. Hein.
Deuxième religion de France, on vous met ça comme quelque chose d'énorme, et en fait il s'agit d'une minorité. La majorité des Français à l'heure actuelle, la grande majorité, est dans l'indifférence du religieux. Ah et oui, c'est ce qui inquiète le Vatican.
Je vais y arriver.
Alors, on va parler d'une petite minorité... Hein, comme les catholiques qui s'intitulent la deuxième, c'est la deuxième minorité, voilà.
Mais non, mais ça c'est de la compétition.
Compétition
pour ceux qui font de la compétition et non pas de l'exercice physique. Donc c'est quand même pour écrabouiller l'autre, c'est pour passer devant. Il y a des places qui sont pas bonnes. Bon, sur un podium, le mieux c'est la première place. La deuxième place, elle est pas terrible. La quatrième place, elle est merdique. Puisque vous arrivez quatrième, vous n'êtes pas sur le podium.
Non, y a pas de
dans
podium.
Certaines compétitions, plus particulièrement les sports mécaniques, il y a des points qui sont décernés. La onzième place, elle est merdique. Parce que vous avez zéro point. Oui, la dixième place, c'est un point. Bon, donc il y a des places merdiques. La deuxième place, la quatrième place, la onzième place. Le mieux, c'est pas de dire je suis la deuxième. C'est tout. Enfin bon, c'est affaire de classement, c'est merdique. Ça vient de l'école, ça. Voilà. Les responsables politiques doivent mesurer l'impact de leurs propos. Qui c'est qui dit ça? Le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui. Il déplore vendredi le climat de crainte qu'ont pu créer un certain nombre de déclarations et juger important que les responsables politiques mesurent l'impact de leurs propos. Voilà. Et alors, la rencontre avec le chef du gouvernement, prévue de longue date, selon Matignon, a aussi porté sur le débat sur la laïcité que doit tenir l'UMP. François Fillon, 45 minutes, a tenu à dire que le débat sur la laïcité devrait et pourrait contribuer à construire notre vivre ensemble, a rapporté M. Moussaoui, qui s'est pour sa part monté critique. Je ne pense pas que le cadre partisan soit le meilleur cadre pour en discuter. Mais à partir du moment où on parle religion, on est partisan. Hein. Débat sur la laïcité, non, c'est l'exercice des cultes. Mais enfin bon, c'est... D'abord, ça deviendra intéressant d'arrêter de foutre un qualifiant derrière la laïcité, puisqu'à partir du moment où on rajoute quelque chose derrière une valeur, ben on l'amoindrit. Hein. Ça, c'est une constante. Hein.
L'UMP s'est bien parlé de ce qu'elle connaît.
C'est
dire
que la laïcité, c'est une valeur, et d'essayer de trouver, quand elle est partie, je veux pas le répéter parce que je le dis à chaque émission, hein, c'est quand même 1871, c'est issu des mouvements communalistes, et puis ce qu'elle recouvre, hein, ce qu'elle représente, c'est l'émancipation de l'individu, de tous les pouvoirs. C'est l'abolition de tous les pouvoirs. Voilà, c'est tout. C'est l'individu, c'est plus le citoyen, c'est l'individu. C'est la relation horizontale entre individus. Le citoyen doit passer par le chef, le sujet doit passer par le roi, le fidèle doit passer par le dieu. Hein, ça redescend, il va faire ses prières, voilà, on le sacrifie, enfin tout. Bon, l'individu, non. L'individu, il a personne au-dessus de lui, il a personne en dessous de lui. Ni Dieu, ni maître, ni valet. Ni valet. Parce que dans certains milieux, quand même, il y en a beaucoup qui refusent d'avoir un chef, mais la pathologie chef, elle existe. Hein. Voilà. Ils le respectent pas, le chef. Non, ils sont chefs et ils demandent qu'on les respecte. Paris, 24 mars 2011, religion, déclaration Guéant, l'UMP est dans un délire maladif. Donc c'est le secrétaire national Parti socialiste, au service public, Razi Hamandi, qui a déclaré ça. Alors évidemment, on est en pleine période électorale, hein, ça se sent. Service public. Beyrouth dénonce une obsession anti-musulmane. Paris, 24 mars, Guéant en croisade islamophobe. Qui c'est qui dit ça? Donc c'est Europe Écologie Les Verts, hein. Donc qui déclare cela. Tiens, c'est signé Europe Écologie Les Verts, on ne sait pas qui c'est qui l'a signé. Non, j'arrive pas. Ah si, c'est Cécile Duflot. Cécile Duflot. Ah, elle a des petits problèmes.
Vive la JOC.
Oui, vive la JOC. Et puis elle a quand même un léger souci avec son compagnon, là, parce que bon...
Oh bon, écoute, on s'en fout, ouais. Alors là...
Non mais...
Franchement...
Ah bon, voilà.
C'est pas France Dimanche.
C'est Loisette Gay, le soir... Ah ben attends, c'est pas France Dimanche, c'est qu'il est candidat au cantonal, les communistes l'ont tartiné comme c'est pas possible, donc, enfin voilà, bon, c'est la souple électorale, voilà.
Évidemment, un argument de plus pour dire que les élections, c'est une tartuffade.
Il suit pas les directives du parti dans laquelle navigue sa compagne, voilà. Ah ouais. Donc ça pose problème, entre autres. Mais j'arrête là, parce que c'est vrai, on n'est pas sur France Dimanche, parce que j'en aurais plus à dire dessus. Paris, 24 mars, Gay, on doit arrêter de dire n'importe quoi et de ridiculiser l'UMP. C'est le député UMP Jean-Pierre Grand, villepiniste, donc qui dit ça, hein. Donc il est député de l'Hérault. Député de l'Hérault. À Paris, débat sur la laïcité. Guéant va recevoir les responsables des religions. Le ministre de l'Intérieur, chargé des cultes.
Oh bah ça, ils savent faire.
Chargé des cultes. Ah. Recevra d'ici la fin de la semaine prochaine, c'est à suivre, hein. Donc, les responsables des religions. Parmi les personnalités, figure le cardinal André 23.
Bah voyons.
Donc, le prochain, ça sera 24.
Oui.
Hein. Oui. Archevêque de Paris. Le président du Conseil français du culte musulman,
bah
c'est
oui.
FCM. Ah oui, il vient
bah
en deuxième.
Oui.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris,
bah voilà.
Dalil Boubaker. Alors lui, je sais pas quand est-ce qu'il vient. Le président de l'Union des organisations islamiques de France,
bah
UOIF.
Oui.
C'était eux qui, il y a quand même depuis plus de 10 ans, au Bourget, ont reçu quand même pas mal de monde hein, dans leur truc annuel, où il y a, disons, la vente de vêtements, hein, quand même assez caractéristique, et qui parlait donc... qui défendait une visibilité de l'islam dans l'espace public. Hein. C'est pour ça qu'ils étaient très marqués pour vendre des vêtements. Hein.
Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne à fond la caisse. Hein.
Voilà. Ah bah oui. Il y a Fouad Alaoui, le président du consistoire... qu'est-ce que je dis ? Non, l'UOIF, c'est Fouad Alaoui. Hein. Je le mélange. Il y a le président du consistoire central, Joël Mergouille, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, le pasteur Claude Batty,
président oui. de la Fédération. Il y a les protestants, bien sûr.
France, bah
oui.
Et le métropolite Emmanuel, donc président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. La plupart des responsables religieux ont exprimé leur hostilité ou leur réserve face au débat sur la laïcité et l'islam organisé le 5 avril par l'UMP, redoutant notamment qu'il stigmatise les musulmans. Alors moi, j'ai cru comprendre que c'était un débat sur l'exercice des cultes. Hein. C'est bon.
Mais oui.
Voilà, c'est tout. Mais bon.
Mal nommer les choses.
Hein. Alors bon, les prises de position, les réactions politiques. Oui, oh bah, j'arrête là. Hein. J'arrête là. Ah si, Jean-Marie Le Guen. Député PS de Paris. Là, on peut le dire, c'est l'hôpital qui soude la charité, hein, parce que quand même, là, il est gonflé. En voulant enrôler l'hôpital public dans sa croisade contre l'islam, Claude Guéant, c'est Jean-Marie Le Guen qui le dit, hein, rend un mauvais service à tous les soignants et au fonctionnement de nos hôpitaux. Les soignants n'ont pas attendu ces injonctions politiciennes pour traiter de façon efficace et responsable les quelques difficultés qui ont pu apparaître ponctuellement dans les relations avec les usagers. Par contre, tous les personnels de l'hôpital public souffrent tous les jours des conditions de travail imposées par la politique gouvernementale et mesure au quotidien la dégradation du service public hospitalier. Alors moi,
il est gonflé, pépère, hein,
que quand on voyait Jean-Marie Le Guen, disons, parler à la télé, il y avait toujours un petit truc qui paraissait en dessous, Jean-Marie Le Guen, député PS ou je sais pas quoi, et président de la PHP.
Oui, alors il faut savoir que la PHP en ce moment est
en train
d'être bradée.
Elle est en train de vendre les bijoux de famille. Elle brade les bijoux de famille, hein, c'est le monde.
Ah oui, oui, oui,
alors, c'est
tout
assez curieux
fait.
Parce qu'il dira que, bah oui, c'est... Enfin bon, j'arrête là. Mais c'est vraiment... propos de Guéant.
L'Hôtel Dieu, par exemple, hein, qui fait grand débat. Ils vont garder quand même les urgences pour les flics en face. Hein.
Ah oui, oui.
Ah oui, 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 oui,
oui. L'Hôtel Dieu, bah oui, la salle Cusco.
Ah bah il y a proximité, hein.
Mémoire,
hein,
parce que donc aux alentours de 68, la salle Cusco était connue.
Mais on vise tous les services spécialisés. Hein.
Elle était assez merdique parce qu'elle était sous les toits, de mémoire, il me semble, hein.
Oui.
Souvenir. Était sous les toits, les fenêtres étaient fermées et je peux vous dire que juillet-août, c'était chaud, hein. Il faisait 40 ou 50 degrés. Hein.
Alors l'administration, c'est un article que j'avais lu la semaine dernière, l'administration n'en sait rien du tout, mais dans des sites immobiliers, spécialisés, bah oui, professionnels, il ressort qu'il y a des transactions là qui sont en train
c'est
de se faire. L'immeuble de l'avenue Victoria, là, voilà, c'est en train de se jouer,
oui,
là.
Oui, qui est en face de l'hôtel de ville de Paris, là, un des bâtiments qui appartient...
Voilà, le patrimoine est bradé, là.
Qui appartient à la PHP. Ah. Donc, c'est le quotidien du médecin qui fait remarquer que non, la PHP n'est pas du tout au courant.
Non,
par
non.
contre, quand on regarde certaines agences immobilières, on se rend compte que les bâtiments, c'est les bâtiments de la PHP qui sont en vente.
Et puis, il y a les médecins qui bougent, quand même. Hein. Voilà. À l'Hôtel Dieu et autres, ça bouge, hein, quand même.
Guéant, donc, il y a Guénaud qui va au secours de Guéant, hein, voilà, il déplore un climat d'hystérie déraisonnable, hein. Guéant dénonce un procès en sorcellerie qui lui serait intenté. C'est assez marrant.
Pauvre petit.
Pour un ministre de l'Intérieur, il parle de sorcellerie. Bon, j'arrête, hein. Et alors, selon lui, le code de la laïcité mettra à la disposition de tous les acteurs publics et des associations une somme de
un
tous
code.
Les textes.
Ah,
oui,
d'accord.
Là, parce que là,
c'est, ah, c'est
elle,
bon,
là.
on va ficeler la laïcité. Ah ouais, c'est bon.
Code
ça.
De la
Fallait
laïcité.
L'inventer, ça. Ouais.
Alors, ça va apparaître dans pas longtemps, parce qu'en fait, le débat là sur l'exercice des cultes en France va sortir le code de la laïcité. Hein.
Ah ouais, c'est bon.
C'est comme
bon, de la laïcité. Positive.
Moi, j'arrête ce
faut
dossier-là.
Préciser.
Ah bah ouverte, positive, accueillante.
Bah oui, pour Sarko, c'est positif.
On passe à la génération pipi, hein, donc c'est le marquage, hein. Marquage du vêtement, marquage sur l'alimentation, marquage sur les corps, hein. Marquage du terrain, la guerre, hein, croisade, hein. Népal, manifestation de chrétiens pour demander un lieu de sépulture. Et oui, jusqu'ici, les chrétiens donc de Katmandou, allaient enterrer leurs morts dans une forêt qui était près du temple de Pasupatinath. Hein, voilà. Alors le problème, c'est que là, il y a des centaines de Népalais qui sont brûlés rituellement chaque semaine. Alors ça pose problème parce que les autorités du temple ont déclaré fin 2010 là que les inhumations chrétiennes n'étaient plus autorisées dans la forêt au motif qu'il s'agissait d'une terre sacrée hindoue. Donc en gros, c'est garder vos... Enfin voilà, c'est... Enfin bon, ça va très bien. Conversion au catholicisme refusé. Bah ça, c'est aux Comores. Alors il y a comme la République islamique des Comores, c'est trois îles, hein, puisque la quatrième, là, a voté pour son maintien donc dans la cinquième République. Hein. La constitution de la République islamique des Comores, et jusqu'ici, moi, je me souviens l'avoir vu passer il y a quand même quelques années en entrefilet dans le Canard Enchaîné, puis dans d'autres journaux, Libé aussi, ça avait été repris. La grande inspiratrice était quand même une certaine Michèle Alliot-Marie. Voilà, hein, République islamique des Comores, donc c'est la charia, hein, voilà. Eh ben, il y en a un là qui veut se convertir au catholicisme, eh ben, c'est interdit. Alors, est-ce qu'il dit on peut pas choisir sa religion. Il a été transféré au palais de justice de Moroni. Là, il est passé devant le secrétaire général donc du tribunal, et lui, il lui a déclaré que notre pays, là, les Comores, là, notre pays est musulman à 100%, et on ne pourra pas vous donner donc un certificat de catholicité ou de chrétienté, parce qu'en fait, c'est plutôt ça, puisque donc les chrétiens refusent de le prendre tant qu'il n'a pas le certificat de chrétienté. Voilà, ça va très bien.
Non, mais ils sont très forts, les catholiques, la aussi. Parce que ils jouent sur la fibre des victimes.
Évidemment, là, c'est la victimisation.
Venez nous aider, les chefs d'État, tout ça. Venez nous aider parce que nous sommes les pauvres persécutés.
Non, mais là, on apprend qu'en fait, aux Comores, vous êtes à 100% musulman. Si vous refusez, c'est pas possible, quoi. Puisque voilà, c'est assez. Et c'est Michèle Alliot-Marie qui a dû pondre à peu près ce codicille, dirons-nous. Roumanie, des ONG contre le financement par l'État des œuvres de l'Église. Une quinzaine d'ONG, c'est une dépêche du 22 mars, ça vient de Bucarest, impliquées dans des projets sociaux en Roumanie, ont demandé au Parlement de retirer une loi discriminatoire, adoptée récemment, on en avait parlé, qui permet à l'État de financer à hauteur de 80% les œuvres charitables de l'Église. Et voilà ce qui est dit. Financer de manière préférentielle les cultes religieux aboutira à la discrimination de nombreuses associations et fondations qui mettent en place des politiques sociales, et on leur fera perdre à terme l'expérience accumulée des années durant. Plusieurs médias roumains ont estimé que l'adoption de ce projet témoigne de la sensibilité de la classe politique envers le potentiel électoral de l'Église, dans un pays où près de 87% de la population se déclare chrétienne orthodoxe. Chrétienne orthodoxe. Douchanbé. On change un petit peu de continent. 18 mars, Tadjikistan. Le parti du président paye la circoncision pour aider les pauvres. Eh oui. Le parti du président tadjik, Emomali Rahmon, va financer la circoncision des garçons originaires des familles défavorisées. C'est le marquage de la religion sur le corps, hein. C'est la marque de la religion sur le corps, hein. Pour moi, c'est une atteinte à l'intégrité du corps, hein. Ce rite religieux coûtant trop cher dans ce pays le plus pauvre d'Asie centrale, à majorité musulmane, a-t-on appris vendredi auprès du parti. Selon les traditions musulmanes, le rite de la circoncision doit être précédé d'une fête somptueuse avec de la régalade, c'est la dépêche qu'il dit, de la régalade et des cadeaux pour ceux qui vont être circoncis. Cette cérémonie coûte environ 2000 à 3000 dollars. Au Tadjikistan, souhaite une somme exorbitante pour un Tadjik moyen.
Des cadeaux pour me faire passer la pilule, attends.
C'est vrai, c'est ouais, 7-8 ans, ça va.
C'est l'horreur.
Ouais. Iran. L'Iran condamne l'otadafé d'un Coran par une église intégriste américaine. Alors, c'est ce Terry John, là, qui l'année dernière avait menacé de brûler le Coran. Ben, là, ça y est, il l'a fait, hein. Téhéran, là, 24 mars. Donc c'est l'Iran, l'Afghanistan, ça réagit aussi, Kaboul, 24 mars, Karzai condamne l'autodafé du Coran aux États-Unis et demande des sanctions. Donc le président afghan Hamid Karzai a condamné jeudi l'autodafé public d'un exemplaire du Coran par un pasteur intégriste américain d'une église de Floride. Donc c'est ce pasteur Terry John à Gainesville. Voilà, donc il a brûlé un Coran publiquement. Alors attention, là, c'est blasphème, hein, ça. Cité du Vatican, Libye. Le pape demande que l'accès au secours humanitaire soit garanti. Je pense que, voilà. Je désire assurer la population de ma sollicitude émue et je demande à Dieu. Il dit pas à Allah, hein. Il dit pas à Yahvé, hein. Non. Il demande à Dieu qu'un horizon de paix et de concorde se lève au plus tôt sur la Libye et sur l'ancienne région nord-africaine. Quand on sait que l'autre, là, il a perduré pendant une quarantaine d'années pour faire croire à tout le monde, que c'était un rempart contre une croisade d'un courant religieux, c'est quand même la Libye, il est quand même fort.
Et que tout un chacun a négocié avec lui.
Non mais c'est fou, hein, c'est fou. Hein, non mais puis tous les autres, hein, ça marche comme ça. Hein. Washington, 20 mars, l'Occident abusé par un malentendu sur la Libye. Qui c'est qui dit ça? C'est le fils de Kadhafi qui a balancé donc une dépêche à Obama. Hein. C'est une grosse surprise que finalement le président Obama, que nous pensions être un homme bon et un ami du monde arabe, bombarde la Libye. Et oui, parce que maintenant le fils de Kadhafi, qui protégeait donc l'Occident, hein, des invasions donc musulmanes, là dit que si on l'attaque, c'est parce qu'il est musulman. C'est quand même assez curieux. Alors l'espace de 15 jours, là,
c'est une belle paranoïa. Ouais.
Cité du Vatican, Saint-Siège. Oui, Saint-Siège, c'est la porte au fond, au bout du couloir. voilà. Et comme dit Borloo, la laïcité, ça sert à démerder les maires. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça peut être pris. Mais bon, Libye, l'Observatore Romano déplore la hâte de la France. C'est magnifique. Alors, on voit que là, le président du CFCM vient dire que bah, de toute façon, attends, moi comme président d'un courant religieux, c'est pas au ministre de l'Intérieur à dire ce qui doit se passer dans les hôpitaux. Là, on voit que le pape, il en fait autant, hein. Voilà. Sous le titre « La coalition des personnes de bonne volonté vacille », le quotidien Observatore Romano, donc le journal officiel du Vatican, à la une, donc évoque la confrontation diplomatique entre l'Italie et la France sur la conduite à mener en Libye. Et donc, il parle de grande confusion. Voilà. Donc, en faute, il va pas tarder. Pays le plus proche géographiquement et économiquement de la Libye, qui fut colonie italienne de 1911 à 1942, l'Italie craint notamment un débarquement massif d'immigrés sur les côtes de la petite île de Lampedusa. Alors, je pense que ça serait bien de faire une ligne directe, hein, avion ou bateau. Avion, c'est mieux. Lampedusa, Vatican. Voilà, parce qu'après le pape il dit qu'il faut pas avoir peur de l'étranger. Hein. Libye, un influent prédicateur qatari justifie l'intervention internationale. Donc c'est Cheikh Youssef El-Kardawi. Hein. Voilà, alors il avait déjà le 21 février 2011, il avait émis une fatwa donc sur la chaîne Al Jazeera, demandant à assassiner Muammar Kadhafi pour en débarrasser la Libye, on voit que ça. Cheikh Kardawi, 85 ans, connaît une audience considérable dans le monde arabe. Le 29 janvier, il avait appelé le président égyptien Hosni Moubarak à démissionner pour le bien de son pays. L'autre l'avait fait. 18 février, une semaine après la chute du président égyptien, il avait appelé les leaders arabes à écouter leur peuple et à engager un dialogue constructif lors d'un prêche sur la place Tahrir au Caire, devant des centaines de milliers d'Égyptiens. C'est comme ça que l'article 2 de la constitution égyptienne, là, qui vient d'être voté par référendum, prend la charia comme point de départ. Hein. Voilà, ça va très bien. Riyad. On voit qu'ils sont pas d'accord. L'imam de la Mecque critique la vague de contestation dans le monde arabe. Alors, donc, il parle de chaos religieux et moral. L'unité ne peut se prêter à aucun marchandage, car elle ne constitue pas une simple ligne rouge à ne pas franchir, mais une tranchée où doivent être brûlés tous ceux qui s'y aventurent. Donc, c'est l'imam de la Mecque qui dit ça, hein, et donc il critique la vague de contestation qui secoue le monde arabe, la qualifiant de chaos religieux et moral. Chaos religieux et moral. Voilà. On continue. Libé, les opérations de la coalition barbare. Donc, c'est les musulmans tanzaniens qui déclarent ça. C'est Dar es Salaam, c'est assez, voilà. Ils doivent savoir, ils savent de quoi ils parlent. L'attaque contre le territoire libyen est un acte barbare visant à saper l'islam, a déclaré lors d'une conférence de presse mardi le mufti Issa Saabam bin Saba au nom du Conseil des musulmans de Tanzanie. J'appelle tous les chefs spirituels musulmans dans toutes les mosquées à travers tout le pays à organiser une prière spécialement destinée à obtenir l'intervention divine d'Allah pour arrêter les bombardements et les massacres en cours en Libye. Alors, quand Kadhafi disait qu'il protégeait l'Occident, donc de l'islam, parce qu'en gros c'était à peu près ça, on se rend compte que bah là c'est quand même assez curieux ce qui se dit. Hein, c'est l'autre, il a bien vendu sa soupe, hein, quand même le Kadhafi. Hein. Paris, 22 mars, prix spiritualité au conseiller monastique du film Des hommes et des dieux. Alors évidemment c'est ce film qui tourne. Hein. Alors bon, c'est Henri Quinson. Donc, qui a écrit le bouquin « Des secrets des hommes, secrets des dieux ». Donc, ça vient de paraître aux presses de la Renaissance, comme par hasard, et raconte les coulisses du tournage, donc du film de Xavier Beauvois, dont il était le conseiller monastique. Faut quand même savoir que ce film a été, disons, le premier qui l'a vu, c'est quand même Sarkozy qui l'a regardé à l'Élysée, hein, la veille de sa sortie en salle. Hein. Ouais. Délaissant les salles de marché de Wall Street et Paris, où il était un jeune trader cousu d'or, Henri Quinson a vécu 6 ans à l'abbaye cistercienne de Tamiers, en Savoie, et a connu 4 des 7 moines assassinés en Algérie en 1996. Voilà, ça situe quand même le personnage. Hein. Alors, sur le prix, là, le prix des spiritualités, il y a eu le Dalai Lama qui l'a eu, il y a eu Xavier Emmanueli, qui l'a eu, hein, voilà. Elie Wiesel aussi, qui ont été le prix. Voilà, alors bon, ils vont pas dire ah non, mais si j'avais su que lui l'avait eu, je l'aurais pas pris. Bon, on va passer au crucifix. Donc, on en avait parlé l'année dernière de cette condamnation donc de la Cour européenne de l'État italien. Donc qui imposait des crucifix dans les écoles publiques. Il y a eu un appel donc qui a été fait par l'État italien, qui a été soutenu par le gouvernement grec socialiste, soutenu par le gouvernement chypriote communiste, soutenu par la Russie de Poutine et de Medvedev, et soutenu aussi par Monaco. C'est quand même pas mal. Évidemment, c'est l'Italie qui avait fait appel. Hein. Donc le premier arrêt est annulé. C'est-à-dire que l'Italie pourra continuer à accrocher des crucifix dans les écoles publiques italiennes. Voilà. Il est reconnu à un niveau juridique international et de grande autorité que la culture des droits de l'homme ne doit pas être mise en contradiction avec les fondements religieux de la civilisation européenne à laquelle le christianisme a apporté une contribution essentielle. Ça, évidemment, c'est la déclaration du Vatican qui se félicite. Alors là, c'est heureux. Parce que en fait, je sais pas s'ils l'ont soutenu. Enfin, ils l'ont soutenu par manière interposée, quoi.
On peut la lire comme ça aussi, la dépêche. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a estimé vendredi que la présence d'un crucifix dans une salle de classe ne violait pas le droit à une instruction neutre. En 2009, un premier jugement de la CEDH avait conclu à la violation par l'Italie de l'article 2 du protocole numéro 1 sur le droit à l'instruction de la Convention européenne des droits de l'homme. Devant le tollé, Rome avait obtenu le renvoi de l'affaire en appel devant la Grande Chambre. L'Italie s'est félicité de cette décision par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Franco Frattini.
Alors là, circule sur Internet donc un appel à signer, hein. Voilà, renseignements et inscriptions, je le dirai pas, cherchez-le, c'est votre problème.
Donc vigilance, les pétitions. Donc,
c'est un communiqué de la Fédération nationale de la libre pensée avec lequel nous n'avons plus rien à voir depuis pratiquement plus de 10 ans, puisque certains libre penseurs ont dit bon bah basta, il y en a marre, on s'en va et on fonde la coordination des libre penseurs. Voilà.
Et on a eu marre de leur pensée sloganisée.
Alors faut quand même rappeler que dans cette Fédération nationale de la libre pensée, l'actuel président c'est Blondel. On l'a quand même un petit peu déconsidéré, puisque à l'heure actuelle, il est, disons, infréquentable sur les plateaux de télé ou ailleurs. Hein. Il y a donc le secrétaire qui est inamovible depuis des années, hein, c'est un certain Christian Eschen. Hein. Je me souviens d'une de ses multiples phrases, hein, à l'issue d'un congrès ou d'une réunion, hein, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, où il se déclarait trotskiste et fier de l'être.
Oui, tout à fait.
C'était à une tribune, hein, que ça a été dit quand même, hein, une tribune donc de la libre pensée. Et puis aussi, à un moment, il avait dit « Souviens-toi de Constat ». Alors Constat, on peut aussi s'en rappeler, hein, puisque Tuchatchevski, après avoir massacré donc les habitants de Constat qui avaient déclaré la commune, hein, un 18 mars hein, notamment, donc télégraphiait à son grand maître Trotsky, Constat ne respire plus. Voilà.
Et ces usurpateurs-là de la pensée libertaire se targuent d'anarcho-syndicalisme, évidemment.
Oui, mais c'est voilà. Alors il y a aussi donc d'autres personnes. J'ai parlé de Blondel. Hein. Il y a aussi évidemment Annie Lacroix-Rize, hein,
qui
a été à la CAN. Hein. Alors bon, sa position sur la famine ukrainienne de 1932-33 pose quand même quelques problèmes au niveau de la relativisation. Hein. Il y a aussi donc ces conférences qui est fait notamment devant ce groupe qui s'appelle Solidarité et Progrès, hein, parti politique qualifié quand même rouge-brun, hein, sous la direction de Jacques Cheminade. Hein, voilà. On en est là, quoi.
Il n'y a aucun label pour une pensée libre.
On peut aussi rappeler
qu'à
une époque, au moment donc de la plateforme de santé de Gidio, il y avait cette Louisa Hanoun. Santé de Gidio, c'est ce truc donc vaticanesque, hein, oui, qui a donc son siège à Rome, qui fait donc dans la diplomatie et qui avait réuni donc tous les courants politiques représentatifs algériens, hein, notamment le PTA. La représentante, c'était Louisa Hanoun, hein, du Parti des Travailleurs Algériens. Et donc, ils avaient signé cette plateforme de santé de Gidio, donc il y a quoi, une douzaine d'années. C'est là où vraiment il y a eu rupture, hein, entre autres. Donc, qui rend la femme algérienne entre guillemets, parce que ça me plaît pas, mineure à vie.
Tout à fait.
Voilà, c'est tout, hein. Voilà. Et alors, cette Louisa Hanoun avait fait la tournée des popotes, hein, pratiquement, elle était passée en France dans toutes les fédérations départementales pour expliquer le bien fondé, donc, de la plateforme de santé de Gidio. Voilà. Mais bon,
c'est les lambertistes. À nos yeux, ça relève plus d'un processus sectaire qu'une véritable pensée. Voilà.
Alors, pour moi, pour nous, hein, la coordination, cette Fédération nationale de la libre pensée, hein, rue des Fossés Saint-Jacques, sera infréquentable tant qu'elle sera sous contrôle lambertiste. Hein. Mais à l'heure actuelle, je crois qu'il y a...
Mais ça filtre partout.
À l'heure actuelle, il y a d'autres groupes qui deviennent infréquentables puisque il y a une trotskisation qui est particulièrement...
C'est pas pour rien
visible.
Qu'on les appelle les coucous.
Crucifix dans les écoles. Donc j'y viens parce que vous avez lu le texte. Hein. Il y avait quand même ceux qui avaient donc lancé l'idée, hein, qui avaient lancé la procédure. Hein. Dépêche AFP du 18 mars qui vient de Rome. Le médecin qui avait porté plainte avec son épouse contre l'Italie sur les crucifix dans les écoles publiques s'est déclaré déçu vendredi par la déclaration de la Grande Cour de la Cour européenne des droits de l'homme de les autoriser, infirmant une décision de première instance. Voilà ce qu'il dit. La décision de Strasbourg me déçoit beaucoup parce que la première sentence sur cette affaire était parfaitement claire, a déclaré Massimo Albertin, médecin à Abano, terme, qui avait intenté l'action il y a 8 ans avec son épouse finlandaise, Sösti Lotsi. Monsieur Albertin a toutefois affirmé vouloir lire la totalité de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour bien en comprendre les motivations. Il semble que tout soit lié à la marge d'appréciation sur l'application des droits de l'homme à propos de laquelle la Cour peut décider de laisser plus de marge aux États dans certains domaines, a ajouté le plaignant, dont les propos sont rapportés par l'agence italienne ANSA. Mais s'il y a des droits à faire respecter, on ne comprend pas pourquoi ceux-ci peuvent être différents de ce qu'ils sont en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne, a-t-il conclu. La CEDH a estimé vendredi, donc avant-hier, que la présence d'un crucifix dans les classes des écoles publiques italiennes ne violait pas le droit à l'instruction, infirmant une décision de première instance condamnant l'Italie. En novembre 2009, la CEDH, donc en première instance, avait jugé la présence de ce symbole religieux, et là, moi, ça m'avait fait plaisir, contraire au droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions, et surtout, au droit des enfants à la liberté de religion et de penser. Donc ça situe la religion dans l'intime de l'individu. C'est pas parce qu'on est le géniteur, c'est pas parce que on est l'ascendant, on est le descendant, on est le conjoint, on est le voisin, on est l'ami, on est le chef, qu'on doit imposer son fantasme. La religion doit rester au niveau du fantasme. On n'a pas à conduire, disons, quiconque de sa connaissance sur ses errements certains peuvent qualifier de philosophiques. Pour moi, c'est, on va continuer. Vilnius, 18 mars, crucifié à l'école, la Lituanie salue la décision de la CEDH, comme par hasard. Le ministre lituanien de la Justice, Remigijus Simasius, s'est félicité de cette décision qui est conforme avec la position de la Lituanie.
Bravo.
Voilà, vas-y mon pépère.
La Pologne aussi doit être satisfaite.
C'est ça.
Et l'Irlande.
Alors, instrumentalisation, parce que c'est le record avec le parvis des religieux. Beyrouth, Liban, j'en ai parlé parce qu'il y a plusieurs manifestations au Liban. Alors, il y en avait une qui avait eu lieu sous la pluie, 200 ou 300 personnes, mais c'était pas possible de mettre la tête dehors. Il y en a eu une autre qui a été beaucoup plus nombreuse. Liban, des milliers de manifestants réclament la fin du régime confessionnel. Ils savent de quoi ils parlent au Liban. Les manifestants ont défilé pendant 3 heures de la place Sassine au ministère de l'Intérieur, scandant « Révolution, révolution contre le confessionnalisme » ou un autre slogan « Le peuple veut la chute du régime ». Encore un autre slogan « La laïcité est la solution ». Voilà. Et alors, cette manifestation était organisée à l'appel de la campagne pour la chute du régime confessionnel au Liban, lancée donc par les forces et groupes de jeunes et de militants et militantes. Dans l'appel à manifester, signé citoyens et citoyennes, c'est pas encore individu mais ça va venir, les organisateurs appellent à faire tomber ce régime confessionnel et ses symboles. Libanais laïcs contre les symboles du confessionnalisme, où je ne veux pas changer de patrie, je veux changer de régime, scandaient les manifestants. C'est une patrie, pas une ferme. Ou pour une loi d'état civil, pouvait-on lire sur les pancartes. C'est une patrie, pas une ferme. C'est pas mal, ça, je trouve. Le système libanais est un mélange complexe, le partage du pouvoir basé sur des quotas communautaires et sur une tradition de démocratie consensuelle. Depuis l'indépendance en 1943, il garantit un équilibre délicat entre les 18 confessions chrétiennes et musulmanes du pays. Ainsi, le président doit être un chrétien maronite, le premier ministre un sunnite, le président du parlement un chiite, etc., etc. C'est pour ça que là, en France, ils se battent à dire « je suis la première, la deuxième, la troisième » et ainsi de suite. C'est une libanisation, ça fait des années qu'on dit que c'est une libanisation. Côte d'Ivoire, des ONG craignent une instrumentalisation des religions. 4 ONG chrétiennes et musulmanes françaises ont dénoncé jeudi des attaques en Côte d'Ivoire contre des déplacés qui trouvent refuge dans des lieux de culte, leur faisant craindre une instrumentalisation de la diversité religieuse à des fins politiques. Alors, faut quand même rappeler qu'en Côte d'Ivoire, moi j'ai quand même cru comprendre que Gbagbo était au moins de sensibilité chrétienne, que Ouattara était de sensibilité musulmane, qui a eu donc un tour de passe-passe au moment des élections, ce qui a permis à Ouattara de sortir majoritaire dans les urnes, alors que parce que le troisième larron s'est désisté en sa faveur, parce qu'il pouvait plus frayer Gbagbo, ce qui peut se comprendre, mais que de toute façon il y a une majorité donc chrétienne face à une minorité musulmane. C'est comme ça que je le vois. Et là, on s'achemine. Mais alors vraiment. Et alors là, on voit les chiffres. Hein. Selon l'ONU, 462 personnes ont été tuées depuis fin 2010. Quelques 500 000 personnes ont fui leur habitation depuis le début de la crise, dont 90 000 se sont réfugiés au Liberia. Le Liberia, avant de s'appeler Liberia, ça s'appelait Negroland. Alors, je ne veux pas refaire l'histoire, mais c'est lourd. Hein. Il y a vraiment des lieux marqués. Hein. Benoît XVI appelle à faire tomber les barrières de la peur de l'étranger. Moi, je pense que une ligne aérienne directe Lampedusa-Vatican, ça serait pas mal. Hein. Dans son message vidéo retransmis sur grand écran, Benoît XVI a souligné que la peur de celui qui ne vous ressemble pas naît souvent de l'ignorance mutuelle, du scepticisme ou de l'indifférence. L'indifférence, voilà. Le grand mot est lâché. Et alors donc ça, c'était donc au Parvis des Gentils. Donc, retransmission télévision, hein. En direct, hein, il y a un grand écran de télé, c'était au Parvis des Gentils, donc devant Notre-Dame, ça s'est passé cette fin de semaine. Alors, j'arrive au Parvis des Gentils. Croyants et non-croyants invités à dialoguer à Paris les 24 et 25 mars. Le nom de cette initiative est inspiré du Parvis des Gentils du Temple de Jérusalem, il y a 2000 ans. Une cour accueillant les païens, qui, sans avoir accès à l'espace sacré, avaient néanmoins droit de citer. Alors ce Parvis des Gentils, organisé donc par les catholiques, pas qu'en France...
Ce serait une initiative demandée par le Vatican.
Mais oui, mais oui.
Qui expliquerait pourquoi Sarko est peut-être allé au Vatican il n'y a pas longtemps.
Elle se déroulera en deux temps. D'abord des débats sur le thème « Lumière, religion, raison commune » à l'UNESCO, à la Sorbonne et à l'Institut de France. S'y côtoieront l'ancien président du Conseil italien, Giuliano Amato. Donc ça, c'est une dépêche du 18 mars, hein, pour resituer, parce que s'y sont côtoyés. Le fondateur de l'Arche, Jean Vanier. Le généticien Axel Kahn, souvenez-vous-en. L'écrivain et psychanalyste, Giulia Kristeva. Le ministre italien de l'économie et des finances, Giulio Tremonti. Voilà. Alors c'est donc il y a aussi donc la communauté de Thésée qui était, c'est pas Thésée-vous, hein, c'est Thésée, mais c'est pisse dans un violon et ça fait la même chose, hein. C'est par la mon cul, ma tête est malade. Le dialogue croyant non croyant inutile pour la moitié des Français. C'est un sondage du 23 mars, donc c'est sur le Parvis des Gentils, hein. Ce sondage a été réalisé par téléphone les 16 et 17 mars au domicile des personnes interrogées. Il porte sur un échantillon national représentatif de 1012 personnes âgées de 18 ans et plus, constituées d'après la méthode des quotas, sexe, âge, profession du chef de ménage. J'aime assez le truc chef de ménage. Hein. Voilà. Il faut quand même savoir que, par exemple, Borloo saluait le Parvis des Gentils.
Ah oui.
La semaine dernière. Le même qui disait la laïcité, c'est pratique pour démerder les maires. Voilà.
Alors, cette semaine dans la Croix.
Dans la Croix, hein, j'y arrive. Le jeudi 24 mars 2011, dans le journal de la Croix. Pour le Vatican, le dialogue avec les non-croyants passe par Paris. Alors, je vais lire. Pour une large majorité de Français, 60%, la question du sens de la vie ne se pose pas vraiment, ou rarement. À lui seul, ce résultat du premier sondage CSA Parvis des Gentils, publié en exclusivité par La Croix, c'est ce que je lisais, hein, justifie que le Vatican ait choisi Paris.
Ben voilà.
Ville des Lumières. C'est pas Ville des Lumières, c'est la laïcité, pour inaugurer le dialogue avec les non-croyants souhaités par Benoît XVI. En effet, s'ouvre aujourd'hui, donc ce jeudi 24 mars, dans la capitale et jusqu'à demain, une série de manifestations sous l'égide du Conseil pontifical de la culture, le ministère de la culture du pape, visant à proposer aux non-croyants un dialogue. Attends, on a besoin des religieux. Non mais, je sais pas si, là il y a un problème.
Pour reprendre l'expression d'un philosophe, Bernard Stiegler, car le mot est de lui, c'est une gesticulation vaine et inutile.
Alors,
il ne dit pas à ce sujet-là, mais je reprends cette expression.
Je continue l'article de La Croix, journal des Assomptionnistes. L'idée en soi n'est pas nouvelle. Après le Concile de Vatican II, Paul VI avait créé un secrétariat pour le dialogue avec les non-croyants, chargé essentiellement de nourrir des relations avec l'idéologie qui symbolisait alors l'athéisme, à savoir le communisme. Voilà. Alors, mais là, on n'est plus dans l'athéisme, on est dans l'indifférence. Attention,
ils s'en plaignent. Le père Dominique Fontaine de la Mission de France, il dit quelque chose de très intéressant.
Le père Dominique Fontaine de la Mission de France.
Ah oui, mais ce qu'il dit est très intéressant.
De la Mission de France.
Ouais, ouais.
Un athéisme au sens propre du mot, privé de Dieu. Jusque dans les années 1970, en effet, ceux qui rejetaient Dieu le faisaient de manière argumentée. proposant un système construit en parallèle ou en opposition avec le christianisme. Il y avait donc une base commune à partir de laquelle ce dialogue était possible.
Oui.
Aujourd'hui, les jeunes générations ne connaissent pas vraiment le mot Dieu. Il n'existe pas dans leur culture. Mais oui, mon pépère, moi j'ai jamais aimé, le mot athée m'a toujours fait peur. Voilà, c'est tout. Et là, on se rend bien compte que les religieux s'en sont nourris.
On leur donne plus d'arguments.
Ils ont même fait plus que de s'en nourrir, puisque ils l'ont suscité. Et alors, il y en a un qui va, il y va pas par quatre chemins, parce que ça, c'est Isabelle de Golmine qui écrit ça. L'autre, le lendemain, alors là, il y va fort. Alors, je termine donc le jeudi 24 mars, là. En témoigne l'accueil favorable rencontré par l'initiative du Parvis des Gentils à Paris, puisqu'aussi bien la Sorbonne que l'Institut de France lui ont ouvert leurs portes.
Et voilà.
Voilà, c'est ça, on cherche la caution.
Voilà, il y a des cautions.
Le lendemain, le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, donc missionnaire, hein. Quand j'entends le mot culture, il y en a un qui disait « je sors mon revolver ».
Ouais. Ouais.
Le grand défi n'est pas l'athéisme, mais l'indifférence. Et oui, en 68, c'était l'athéisme, et ça, on s'en nourrissait. C'était les chaises musicales, je te prends ça, tu me rends ça, puis voilà. Là, c'est plus ça du tout.
L'athéisme, c'est en fait, c'est une bannière.
Dieu, mais t'es qui, toi?
C'est un étendard, et les religieux savaient très bien bannière contre bannière, ils connaissaient très bien ce combat-là. Et là, voilà pas que. C'est
alors,
l'indifférence.
Cette boutade qui dit, on ne montre pas du doigt, parce que Dieu est partout, et on peut mettre son doigt dans le trou du cul de Dieu, et ça, Dieu, il aime pas du tout. Bon, maintenant, ça tient plus, parce que Dieu, on sait plus qui c'est, Dieu, il est pas partout, donc c'est pas pour ça qu'on peut montrer du doigt. Mais on risque plus de foutre son doigt dans un truc vraiment merdique. Hein. Voilà. Bon, je continue. Donc, Ravasi, cardinal Gianfranco Ravasi, grand missionnaire devant l'Éternel, c'est dans le journal La Croix du vendredi 25. C'est à garder, ça.
Il y en a deux pages.
Enfin, nous avons conscience que le grand défi n'est pas l'athéisme, mais bien l'indifférence, qui est bien plus dangereuse. Certes, il existe l'athéisme ironique d'un Michel Onfray. Mais l'indifférence peut être illustrée par cette boutade. Si Dieu descendait aujourd'hui dans la rue, on lui demanderait ses papiers. Alors Onfray, qui, la semaine dernière, dans sa tribune dans le journal Le Monde, a alimenté particulièrement les anti-IVG. Hein ? Bravo ! Non mais bravo le mec du dictionnaire de l'athéisme, bravo pépère. Faut continuer Michel. Mais c'est vrai que c'est quand même un prof de philosophie, moi je dirais de sociologie ou de je sais pas quoi, disons à l'école catholique Saint-Arnulf ou Saint-Gudule là de je sais pas quoi de Caen, hein, voilà. C'est à ce niveau-là, hein, ça s'arrête là Michel Onfray, hein. Donc on voit là le cardinal Gianfranco Ravasi, il va pas par quatre chemins, hein, c'est pire que nous, hein. Certes, il existe l'athéisme ironique d'un Michel Onfray. Mais l'indifférence peut être illustrée. Il y a pire. Il y a pire. Michel Onfray, c'est rien. Hein? Michel Onfray, en fait, ne fait que nourrir les religieux. C'est ce qui est dit. Hein? Et alors voilà ce qu'il dit. Je reprendrai l'indistinction. Pas Michel Onfray, hein, Ravasi. Je cite pas Onfray, c'est pas possible. Je reprendrai la distinction proposée par le théologien protestant allemand Dietrich Bonschoeffer entre les réalités avant-dernières et les réalités ultimes.
Oui, alors là, nous avons la démonstration de ce que je disais avec la pensée dogmatique. Hein. Affirmation, donc, de quelque chose de... On pose le dogme. Alors, il va poser le dogme. Le christianisme est par nature une religion incarnée.
Oui, et ça... Alors, voilà. Il continue. Notre devoir est de tenir un discours sur les réalités ultimes. Par là, j'entends non seulement Dieu, la parole, la transcendance, mais aussi, et c'est le programme du parvis, des gentils, les grandes questions existentielles.
Mmh.
La vie, l'amour, la mort.
Le serpent
alors,
qui se mord la queue.
C'est pas les questions. Moi, je veux bien que ça soit des questions existentielles pour les religieux. Voilà. C'est vrai que s'il y avait pas des fidèles, ils n'existeraient pas. C'est leur seule existence sociale. Des fidèles, hein. Voilà. La démarche spirituelle de l'individu se situe entre le moment où il se découvre mortel et celui où il accepte d'être mortel. Voilà, c'est la démarche spirituelle de l'individu, et la religion n'a rien à faire là-dedans. Et je précise, mais c'est tout à fait simple, hein, c'est peut-être trop simpliste, hein, c'est que il vaut mieux vivre quand on est vivant plutôt que d'attendre d'être mort pour vivre. Parce que les histoires de paradis terrestre, hein, les histoires de je sais pas combien de vierges qui vous attendent, d'abord c'est fatigant, les histoires de retraite, hein, quand t'auras fini de bosser, tu pourras enfin, disons, aller te reposer, tu pars, vous avez plus de fric et vous êtes complètement cassé, tout ça c'est, non, faut profiter quand on peut profiter, faut pas attendre d'être mort ou totalement impotent pour pouvoir commencer à profiter.
Et alors, il a posé sa pensée dogmatique, il a démontré l'histoire du serpent qui se mord la queue, hein, ce qui était CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et après, pour rejeter la pensée adverse, hein, il va sortir la grande stigmatisation. Après, on tombe dans l'inquisition. La vérité, nous dit-il, nous précède dans la personne du Christ. Tandis qu'aux yeux de la culture contemporaine, ça c'est ceux qui pensent différemment, chacun d'entre nous l'a construit. Et oui, égal, on n'est pas préétabli, on se construit. Ça, c'est une philosophie qui vient de Hegel. Hein, voilà. Ça, c'est pas tout à fait faux. Et il va introduire... Alors, c'est là qu'on a toute la perversité de ces religieux. Il va introduire des fausses vérités là-dedans. De cette différence découlent des conceptions diverses du bien et du mal, de la liberté, de la justice. Il va nous faire croire, ce monsieur, que le fait de ne pas adhérer à un dieu quelconque nous met contre les valeurs universelles. Mais pas du tout. Il fait un glissement, là. Il fait une confusion. Il dit toute vérité variant suivant son contexte. On est des gens qui penseraient au petit bonheur du vent, mais pas du tout. Nous sommes attachés aux valeurs universelles.
Toute cette série de dépêches que je lis là depuis une heure et demie, c'est à géométrie variable. Allons, quel que puisse être le représentant d'un courant, d'une sensibilité religieuse ou d'une sensibilité politicienne, ce n'est pas autre chose. Mais là, venir nous dire que la religion, la plus particulièrement catholique,
c'est le sauveur suprême.
Rechercher le vrai, le bien, reconnaître le faux, le mal, mais il n'y a ni vrai ni faux, il n'y a ni bien ni mal, il y a le médian, il y a ce qui passe au milieu, ce qui sera le bien pour l'un, ça sera le mal pour l'autre, et ça se voit plus particulièrement avec ces personnes dogmatiques. C'est la recherche qui est intéressante, c'est pas de l'affirmer, l'avoir trouvé. Et alors, ça se termine comme ça. Nous voulons jeter un pavé dans la mare, stimuler la réflexion et le dialogue. Et oui, parce que l'athéisme, bah oui, ça faisait le, on se battait, hein, c'est, on sait très bien qu'une association qui se montre contre quelque chose se nourrit de la chose contre laquelle elle s'est montée, et par voie de conséquence, elle nourrit, ce qu'elle combat. Là, c'est l'indifférence. T'es qui, toi? Parce que c'est ça, en gros, on demandera à Dieu tes papiers. Bah oui, t'es qui, toi? Puis c'est tout, c'est pas autre chose. Ah, bon, bah oui, bah c'est bien. Et donc là, c'est un pavé dans la mare, parce qu'ils ils supportent pas l'indifférence. Avec l'indifférence, ils vont crever. C'est tout, ils vont disparaître.
Ah, le dogme, il tombe tout seul. Hein.
Ah, c'est un mur, pouf. Alors voilà ce qu'il dit, après Paris, nous irons à Stockholm, sous les auspices du luthéranisme d'État, puis à Tirana et à Prague, au lieu de l'athéisme d'État. Athéisme.
Ah oui.
Il y a des mots que j'aime pas.
C'est certes, ça existe.
Débat laïcité UMP, le parti radical de gauche lance des rencontres de l'identité républicaine. Donc on voit, là, c'est les parvis, ça va, le PRG. Voilà, il y a Taubira hein, dans le PRG. Les représentants des cultes reçus par le président du Sénat. Alors chez Gérard Larcher, bah, il y a la liste. Hein. Donc évidemment, ça va faire le code de la laïcité, ça. Sur l'exercice des cultes, débat laïcité UMP, les évêques de France réservés sur leur participation, alors qu'ils étaient d'accord. Débat sur la laïcité, le recteur de la Grande Mosquée de Paris n'ira pas, alors que la semaine dernière, il disait qu'il y allait. Voilà. Débat sur la laïcité, les sikhs de France expriment leur inquiétude. Alors, ils disent, ah ouais, quand même, je l'avais lu la semaine dernière, mais bon, on ressemble, mais c'est pas pareil que nous. Alors, donc, leur phrase est assez intéressante. Hein. Monsieur Singh, donc qui représente les affaires publiques et l'aumônerie sikh, relève que la stigmatisation des musulmans de France entraîne par effet d'amalgame et de préjugés une stigmatisation des minorités religieuses d'Orient et d'Asie, en particulier la communauté sikh française après le 11 septembre 2001. C'est quand même assez... Voilà. Le grand rabbin de France, difficile d'être musulman dans un climat malsain. Alors on croit qu'il va à leur secours, non pas du tout. Mais le véritable enjeu est ailleurs, plus pervers et plus grave. C'est hélas la place des juifs et des musulmans dans la société française. relève M. Bernheim, qui rejette toute comparaison entre la situation des musulmans aujourd'hui en Europe et celle des juifs dans les années 30, constituant à ses yeux un outrage à la mémoire des victimes de la Shoah. Là, vraiment, c'est des remudes, là. Oui, il vous reste 20 minutes. Cantona, le CRIF appelle au vote, sauf pour les extrêmes. C'est assez intéressant. Au nom de la défense des valeurs républicaines, le CRIF appelle à refuser d'apporter leur suffrage aux candidats du Front National qui veulent appliquer un programme d'extrême droite et xénophobe. Il est également évident que le CRIF appelle à ne pas voter pour des candidats d'extrême gauche connus pour leur position antisioniste. Voilà, là tout est dit. Cantona, les musulmans appellent à voter pour le Front Républicain. Tout à fait au courant, c'est une dépêche du 21 mars. 21 mars, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, s'est défendu lundi matin de stigmatiser les musulmans à travers le débat du 5 avril, qui, a-t-il dit à quelques journalistes, sera celui de la laïcité positive. Voilà, là il a retrouvé le mot.
Voilà.
Alors que c'est l'exercice des cultes, hein, c'est lui qui l'avait balancé comme ça. Alors, on va y arriver. Projet de loi de bioéthique. Donc le 5 avril prochain, discussion au Sénat, donc sur la révision des lois de bioéthique, ça va durer jusqu'au 8 avril, donc 2011. Alors il y en a quand même, là c'est bien, là, donc le rapporteur du projet au Sénat c'est Alain Milon, et alors il n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, hein. Donc évidemment, au moins un courant religieux, plus particulièrement catholique, appelle à prière. Alors, il faut donner son nom, s'il faut signer une pétition. Hein. Alors, faites gaffe qui c'est qui la signe. Hein. Alors, avant le 5 avril, il faut réciter 10 Ave par jour, sous l'invocation de Notre-Dame de l'Annonciation. Je ne sais pas qui c'est. Il faut faire célébrer une messe du Saint-Esprit. Voilà. Il faut jeûner un jour par semaine à cette intention. Voilà. Alors, cette semaine, il y a eu, hier, l'association, le congrès des 40 ans de laisser les vivre. Donc il y avait la conférence inaugurale, ça se tenait à la Maison de la Chimie, hein, c'était samedi, hier après-midi. Le professeur Yvan Gobry, je l'ai pas dit la semaine dernière, bon voilà, vous pouvez faire de la pub, membre fondateur de Laissez-les vivre. Il y avait donc aussi Jacques Trémollet de Villers, par ailleurs avocat. Il y avait un débat animé par Rémi Fontaine. Alors le débat, le thème c'était l'Église, bouclier de l'enfant à naître. Et donc il y avait le révérend père Arguac, l'abbé Pagès, l'abbé Lecoq et l'abbé de Tounouarn. Voilà, c'était la Maison de la Chimie. Il y a une messe pour le 2 avril. Alors là, c'est pour la canonisation du professeur Lejeune. Faut y aller. Françoise Dor, l'épouse de Xavier Dor, a passé le goupillon à gauche, oui.
D'accord.
Jean Royer, idem, hein, voilà, c'est ça. Il avait ramassé 3% des voix au présidentiel quand Pompidou avait passé, je sais pas quoi, à gauche. Il s'était notamment rendu célèbre pour sa lutte contre la pornographie et contre l'avortement.
Voilà. Il faut dire aussi qu'ils ont ouvert le 24 mars 2011 à l'Institut Pasteur. Je dis il s'agit de qui ? De la Fondation Jérôme Lejeune et ses sbires. En forme de congrès, c'est la deuxième année, les journées internationales Jérôme Lejeune, J-I-J-L.
Oui, c'était
les 24 et 26, du 24 au 26 mars.
En vue de la canonisation.
Alors, il ne s'agit plus de la trisomie, c'est élargi. C'est recherche sur les maladies génétiques de l'intelligence. C'est bien dit. Hein.
De l'intelligence. C'est curieux. Et alors, une info qui est très intéressante. On va me dire que c'est encore électoraliste. La région Île-de-France va proposer à titre expérimental, à partir du 25 avril 2011, aux jeunes scolarisés, le passe contraception. Professionnels de la santé concernés, donc médecins, biologistes médicaux et pharmaciens, seront individuellement informés de la mise en place de cette action par un courrier du Conseil régional Île-de-France. Ce protocole sera proposé aux élèves inscrits en classe de seconde ou classe d'âge équivalent dans les lycées, les centres de formation d'apprentis en instituts de formation sanitaire ou sociale. C'est l'infirmière scolaire qui, lors d'un entretien de prévention, délivrera le pass sous la forme d'un chéquier de coupons permettant aux jeunes d'accéder à un suivi médical et à la délivrance d'un moyen de contraception pour une durée limitée à 3 ou 6 mois. Les moyens retenus sont la contraception orale et le stérilet pour les jeunes filles et le préservatif pour les garçons. Le mineur devra consulter le médecin de son choix qui, outre la prescription du contraceptif pour une durée de 3 mois, fera effectuer des examens de biologie médicale à réaliser avant le renouvellement du contraceptif. Une seconde consultation médicale sera réalisée après la prise du contraceptif. Deuxième point, concernant la biologie, le jeune se présentera directement dans un laboratoire pour le prélèvement. Les résultats seront transmis au médecin prescripteur et non au jeune. Troisième point, la pharmacie, au vu d'un chèque du pass contraception, délivrera le moyen contraceptif choisi. Et donc, Alors, évidemment, il y a une pétition contre ça, hein, bien sûr. Donc, c'est mis en place le 25 avril 2011. Vous allez peut-être nous parler d'Israël Nizan.
Oui, mais avant, j'avais d'autres choses. Parce que, bon, il y a eu un numéro spécial. Je vais dire ce que je peux, hein, dans le quart d'heure qui suit. Il y a un numéro spécial du quotidien du médecin qui revient. Et il y a notamment sur les droits et sur les évolutions actuelles. Et il y a, j'ai relevé quelques articles, dont un notamment entre droit définitif et droit menacé, daté du mercredi 16 mars dans le quotidien du médecin. Et nous retrouvons les propos que nous avions entendus sur cette radio même et dans cette émission il y a quelques années, les propos de Joëlle Brunery-Kaufmann, et on les retrouve là, elle redit,
elle, synthèse, ouais.
Elle repart de son expérience. Alors, à Joëlle, que je salue ici, à Cécile Malgordé, que je salue aussi,
sénatrice,
à ces femmes gynécologues à qui, moi, femme, je dois tant, Cécile, les premières gynécologues au planning et notamment à Grenoble, hein. Voilà, elle explique très
Grenoble,
bien, Cécile,
pas loin du Riage,
comment c'était les femmes qui poussaient les portes et les médecins étaient là. Il fallait faire quelque chose pour ces femmes qui en avaient marre de leur énième grossesse, qui n'en pouvaient plus. Alors déjà à Cécile et à Joëlle, à Cécile Margoldé et à Joëlle Brunery-Kaufmann, je vais leur livrer cette petite phrase, je peux pas m'empêcher de leur livrer en clin d'œil. Cette phrase d'un médecin de 1901, Pierre-Charles Fiesinger. Voici ce qu'il dit, ce monsieur. La femme doctoresse est une de ces herbes folles qui ont envahi la flore de la société moderne. Très innocemment, elle s'est imaginée couvrir des livres et disséquer les cadavres allait lui créer un cerveau nouveau. Je dis que par sa forme d'intelligence, une femme est incapable de soigner des malades. Voilà, affirmation définitive que l'on doit au docteur Pierre-Charles Fiesinger, qui fut à partir de 1901 rédacteur en chef du journal des praticiens. Alors, des propos un peu plus revigorants, je passe à Joëlle Brunery-Kaufmann, qui dit ceci. Avant les années 1970, nous étions dans un système verrouillé, où les femmes vivaient leur sexualité dans la crainte de la grossesse et accouchaient dans la douleur, puis tout a basculé. En à peine d'une décennie, une série de lois et d'événements transforment radicalement la condition féminine. Après l'autorisation de la contraception orale, en 1967, c'est la loi Neuwirth, il y a eu le manifeste des 343, entre guillemets, salopes, signé en 1971 par ces femmes qui ont avorté. Et Joëlle Brunery-Kaufmann dit bien que c'était un pavé dans la mare à l'époque. Et il signe le début des avortements militants. Il faut signaler aussi, j'ouvre une parenthèse, dans la même période, juste un petit peu avant, la procédure à Bobigny avec Gisèle Halimi. Hein, tout ça est très lié. Hein. Il signe le début des avortements militants, réalisés clandestinement, parfois dans les appartements, des 343 signataires ou dans les locaux du planning familial, grâce à une nouvelle canule, dit la canule de Carman. Cela a ouvert la voie à la loi Simone Veil du 17 janvier 1975 qui dépénalise l'avortement, victoire entre toutes, dit Joëlle Brunery-Kaufmann, qui met progressivement un terme aux faiseuses d'anges et aux avortements maison avec sonde. Puis il y a eu la loi Veil qui ne fut pas acceptée tout de suite et qui a suscité de violentes réactions. Témoignage de Joëlle Brunery-Kaufmann. Il y eut de terribles discussions à l'Assemblée nationale, révélatrices d'un conservatisme très anglais, très ancré dans la société. Les mêmes arguments revenaient inlassablement. Si les femmes peuvent avorter si facilement, disait-on, elles ne vont faire que ça. Le corps médical n'était pas le dernier à crier avec les loups. Et d'ajouter, beaucoup de services adoptèrent la clause de conscience et refusèrent les avortements. Nous avons dû nous battre pour ouvrir des centres autonomes. Fin de citation de Joël Brunnery-Kaufmann. Je signale que dans les députés viennent de faire un amendement, hein, où ils ont rétabli
la clause de conscience.
La révision des lois de bioéthique, hein, de réaffirmer la clause de conscience pour les médecins, hein. Ouais. Évolution, dites-vous? Ouais, d'accord. Et puis, départ culon, hein. Ces réticences ne se sont pas tues les décennies suivantes, malgré l'extension des droits des femmes, hein. Mais parallèlement, les commandos anti-IVG représentent l'expression la plus radicale de la frilosité morale ambiante. Joël Brunnery-Kaufmann témoigne de son vécu, hein, à Antoine Béclair. J'ai vécu à 3 reprises la visite de commando menée par l'association SOS Tout Petit à l'hôpital de Clamart où j'exerçais. La dernière fois, ils ont fait irruption dans le bloc où j'opérais une femme qui était terrorisée. Ils s'enchaînaient aux tables avec des chaînes. Ils brandissaient des slogans vindicatifs. Le pire, selon la gynécologue, l'impunité dont ces commandos jouissaient, du moins jusqu'en 92, quand fut votée la loi sur le délit d'entrave à l'IVG, rare mesure des pouvoirs publics en faveur de l'IVG dans les années 90. Ils ne cessent de la braver.
Xavier Dore a été condamné combien de fois avec sursis?
Et les flics sont toujours du côté des anti-IVG pour protéger cette petite minorité, la violente.
Les magistrats, puisqu'en principe, quand vous êtes condamné avec sursis, vous refaites la même chose, le sursis saute, hein. Allons.
Elle rappelle, Joël Brunnery-Kaufmann, qu'en 1995, ah oui, moi je m'en souviens de cette manif-là, les femmes doivent encore battre le pavé pour défendre ce droit. En 1995, c'était une manif très joyeuse, très colorée, où il y avait également beaucoup de papas.
Ah non, mais ce qui a surpris,
il y avait hommes
que,
et femmes. Ah oui,
bon,
oui,
c'était certains courants féministes, entre guillemets, qui avaient monté la chose, hein, la manif. Et en fait, il s'est avéré que c'était... Ça s'est terminé en une promenade avec des poussettes, des enfants. C'était une manif familiale, en fait, puisque tout le monde est concerné.
Merci, Joël Brunnery-Kaufmann, de rappeler cette manif de 1995. On s'en souvient. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que de nouvelles mesures réaffirment le droit à la contraception et à l'IVG. La fameuse loi Aubry de 2001 remanie celle de Simone Veil. Par exemple, dans les modifications, le délai d'avortement passe de 10 à 12 semaines, supprime l'autorisation parentale pour les mineurs, rend facultatif l'entretien pré-IVG pour les majeurs et autorise la pratique de l'IVG médicamenteuse. Pour autant, le fonctionnement dit toujours... c'est l'IGAS qui le dit, le rapport de l'IGAS. Pour autant, le fonctionnement réel des dispositifs contredit trop souvent la volonté affichée de donner la priorité à une approche préventive. Dans les faits, la prévention est encore la parente pauvre des politiques de santé. Et une femme sur deux déclare que l'information sur l'IVG est insuffisante. Les mineurs sont particulièrement mal informés. Elles sont 13 000 chaque année à se faire avorter. La loi de 2001 prévoit 3 séances d'information à l'école, par an et par niveau. Que nenni, ça n'a pas lieu, c'est loin d'être appliqué. Les intervenants rencontrent surtout les collégiens de 4e et 3e. Et ça, c'est le docteur Jean-Claude Magnier, co-président de l'ANSIC, qui le dit. Il est aussi responsable de l'unité orthogénie à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Quant à leur prise en charge, ça c'est très important. Les textes disent que c'est ouvert aux mineurs. Bah oui, mais la prise en charge... Problème. Malgré les avancées de la loi de 2001 qui l'autorise les moins de 18 ans à consulter sans leurs parents, elle reste souvent contrainte par des considérations financières puisque le tiers payant n'existe pas chez les médecins de ville. Et voilà. La possibilité donc de choisir la méthode abortive se restreint, dit ce médecin. Et donc, c'est très inquiétant. Les gouvernements veulent externaliser, dit-il, l'IVG grâce à la méthode médicamenteuse, car l'hôpital n'est pas intéressé par cet acte mal rémunéré. Cela coûte moins cher. Il n'y a pas besoin de lits. Les maternités de proximité peuvent fermer. Alors, c'est une inquiétude. Tout le monde note que Roselyne Bachelot a fait de belles promesses en février 2010, qui a promis une hausse de près de 50% des forfaits versés aux établissements pratiquant les IVG. Pas un denier n'a encore été versé. En attendant, le nombre d'IVG de 227 000 n'a que très légèrement baissé par rapport à celui de 1975. Alors, il y a l'expérience à Strasbourg du professeur Nizan, qui lui a fait un choix. Il est dans deux services. Il est au centre médico-chirurgical obstétrical, hein, Strasbourg, et il exerce à l'hôpital universitaire de Haute-Pierre à Strasbourg. Eh bien, avec là-bas, à Strasbourg, les femmes ont la possibilité d'avorter jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, conformément à la loi Aubry, mais à la différence de nombreux établissements, et surtout, elles peuvent choisir l'IVG médicamenteuse au-delà de 9 semaines. Alors, certes, on est d'accord avec le professeur Nizan, il faut maintenir les centres chirurgicaux. Mais il y a aussi la pratique médicamenteuse qui n'est pas à négliger et lui, il l'utilise à fond. Donc il est à la tête de deux services obstétriques, comme je l'ai dit, et il a fait de l'IVG médicamenteux jusqu'à 14 semaines la spécificité des deux centres d'obstétrique qu'il dirige. Et ça, c'est parti des interruptions médicales de grossesse. Hein. Je viens d'une formation de prénatal, dit-il, où l'on provoque des interruptions médicales de grossesse bien au-delà des 14 semaines avec les mêmes médicaments. S'ils ne détiennent pas l'AMM entre 8 et 14 semaines, c'est simplement parce qu'il n'y a eu aucune étude réalisée sur cette période en France où l'idéologie est encore trop puissante, argumente le médecin. Ajoutant que les Anglais et les Hollandais, ou encore les Belges, pratiquent librement l'IVG médicamenteux jusqu'à 14 semaines. Alors, il a une pratique, il est très déontologique hein, dans ses centres. Hein, il explique comment ça fonctionne, accompagnement et confidentialité. Tout y est fait pour faciliter l'accès à l'IVG en toute confidentialité. Au CMCO, le Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical, les patientes de 30 à 40 par jour, hein, elles sont. Se rendent au guichet, entre guillemets, des consultations en urgence, sans rendez-vous, préparation à la naissance, info ado, fin de citation. Elles sont, dans les deux heures, prises en charge par une des 10 sages-femmes du centre, soigneusement recrutées. Ça, c'est important, le recrutement des sages-femmes en question. « Je vérifie, dit Israël Nizan, qu'elles acceptent de faire des IVG et je veille à ce qu'elles soient en permanence dans le centre. Pas question de travailler seulement avec des internes qui tournent tous les 3 mois. » Après un premier entretien, les consultantes ont une semaine pour réfléchir. Puis, elles viennent avorter thérapeutiquement ou chirurgicalement, en hôpital de jour où elles sont reçues, souvent accompagnées dans des chambres doubles et lumineuses. 10 jours après, un dernier entretien avec échographie permet de vérifier si l'IVG a réussi et également de parler. On met des mots sur l'acte et ça c'est très important. Bien que l'entretien privilégié ne soit plus obligatoire pour les majeurs depuis 2001, bah oui, il y a un deuil à faire avec une ce qui aurait pu être une maternité. Elles ont la possibilité de rencontrer à tout moment une psychologue et nous repérons celles qui ont besoin d'être revues. Et la meilleure des IVG, dit Israël Nizan, reste celle qu'on n'est pas obligé de faire. Et donc, toute cette politique d'information qu'il pratique là-bas, il va dans les collèges, il va dans les lycées, là-bas en Alsace, partout, il fait un travail inlassable. Voilà,
Strasbourg,
concernant les mineurs.
À préciser, Strasbourg, régime concordataire. Hein.
Voilà. J'ai pas le temps cette semaine, non. Je parlerai, je l'ai lu dans le quotidien du médecin, j'en reparlerai à l'occasion de l'entretien du médecin gynécologue avec une jeune fille fille mineure quand elle vient en consultation. C'est une consultation très particulière et on en parlera, on en dira deux mots. Tout ça n'est pas sujet tabou, bien au contraire.
Voilà, eh bien c'était l'émission Ni Maître Ni Dieu de la coordination des libres penseurs sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous allons laisser les micros et le studio à l'émission Folcalier, et cela jusqu'à 14h. Eh oui, parce que là, il est midi et on...
La cigarette sans cravate, on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice, qui pousse dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont